Là, l'idée, c'est de causer des raisons pour lesquelles on bosse comme ça. Et aussi de se poser la question plus générale, qui, je trouve, et c'est pour ça qu'on a fait un truc un peu le débat tabou, qui clairement est tabou aujourd'hui. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de cette question à l'heure actuelle, alors les chiffres varient entre 1 et 2% de la population dans l'agriculture aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une population qui est composée à maximum 2% d'agriculteurs-agricultrices.
400 000 aussi.
Oui, il y en a 400 000 en France. Donc en fait, on est proche plus proche des 1% qu'autre chose, hein. 1% de la population. Donc si on est dans une pièce et qu'on est 100, on regarde Jean-Claude ou Christiane dans un coin et on lui dit, bon, bah écoute, tu vas faire la bouffe, et bon, ça on peut en recoser, hein, de ce qui est vraiment produit en termes de bouffe, mais tu vas faire la bouffe pour tout le monde. Voilà. Est-ce que c'est ça la bonne solution? Et donc, bah, l'idée là sur l'atelier, c'est donc que il y a une petite partie constat au départ, qui du coup va pas être faite sous forme de débat. Alors je vous invite là si vous avez des questions, alors si vous avez des questions sur un point technique que vous vraiment vous comprenez pas, c'est-à-dire je ne suis pas clair, je vous invite à lever la main. Auquel cas je vous y réponds. Par contre, si vous avez des questions type débat, je vous invite à attendre la deuxième partie, parce que l'histoire, c'est qu'on puisse causer. Donc l'idée, c'est de faire cette première partie le plus rapidement possible, pour qu'on ait le plus de temps possible derrière pour faire justement l'échange, mais à partir d'un constat commun. Voilà. Qu'on mette certaines bases claires, comme ça ensuite on peut causer sur une base commune, quoi. Voilà. Et alors, le sujet en question, la base. Alors, oui, et comme on m'a dit initialement que dans le cadre de l'arabe, la thématique de la semaine tourne autour du bois, moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup dans ce contexte-là, et on peut en causer aussi. J'aimerais, si on arrive à trouver le temps là-dedans, pour faire un bout là-dessus, ça serait vachement bien. À l'aune de ce qu'on va regarder juste là tout de suite. Alors, moi, ce qui m'intéresse pour cadrer le débat tout de suite, et alors, à savoir que ce qu'on va faire juste là, la mini-présentation, c'est. On prend un peu plus le temps d'habitude, mais nous, on l'a fait sur notre ferme dans le cadre de la formation qu'on donne qui s'appelle Créer une ferme à taille humaine. Et la base de toutes nos réflexions vient de ce bout-là, qui peut durer entre 10 minutes et 5 heures, hein, si on veut, mais voilà. Mais c'est notre constat de base et c'est de ce constat qu'on construit ensuite. Alors la question de base qu'on se pose nous, alors vous m'excuserez, je fais référence à mes slides qui ne sont pas projetés. Donc je vais vous décrire ce qu'il y a dessus. La question qu'on se pose nous au départ, initialement, c'est la grosse question énergie-climat, comme on dit. Quels sont les constats scientifiques à jour actuels qui peuvent nous permettre de nous positionner dans nos vies et dans nos activités pour projeter en fait des modèles de société ou juste des modèles économiques même au-delà de ça et les liens qui vont ensemble les uns avec les autres à partir des constats qu'on fait. Et le premier point à prendre, et moi c'est le point sur lequel je reviens toujours, c'est qu'est-ce que l'énergie? Oui?
J'étais pas là au tout début, est-ce que tu t'es présenté
Alors, j'ai juste dit que je m'appelais Sylvain et je suis paysan semencier à quelques kilomètres d'ici, à Bréhel. J'ai monté avec ma compagne une ferme qui s'appelle la Ferme Sans Nom. On produit des semences à toute petite échelle, aujourd'hui que à la main. Et c'est une grosse galère. Voilà.
Merci. Du coup, petite question de clarification.
Ouais.
Quand tu dis nous, c'est qui nous?
Ma compagne et moi.
D'accord.
Voilà, on est deux sur la ferme. Alors, qu'est-ce que l'énergie? L'énergie est une grandeur physique qui quantifie le changement d'état d'un système. On est d'accord? Donc, ça peut être un changement de température, de vitesse, de forme, de position, de composition chimique, de composition atomique. Donc un exemple bête, hein, c'est quand on prend un œuf cru, qu'on le met dans une poêle, il y a eu tout un type d'énergie différente qui font qu'on passe de l'œuf cru à l'œuf au plat cuit. Changement de forme, de température et de composition chimique. Okay? Dès que quoi que ce soit se transforme, il y a de l'énergie qui rentre en compte. Dit autrement, c'est l'énergie, c'est une unité de comptage ou de mesure de la transformation du monde qui nous entoure. Plus un système a changé, plus la quantité d'énergie entrée en jeu a été importante. Plus une quantité importante d'énergie entre en jeu, plus le système a le potentiel de changer. Alors, un truc un peu nul, un peu technique, mais qui, bon, il faut quand même dire, la loi de conservation de l'énergie, qui est une loi qui ne peut pas être modifiée par l'Assemblée nationale, dans un système qui ne communique pas avec l'extérieur, la quantité d'énergie reste rigoureusement constante au cours du temps. Ou l'énergie totale d'un système isolé est invariante au cours du temps. Ou rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce principe rend impossible, par exemple, le mouvement perpétuel, car aucun système physique réel, n'étant parfaitement isolé de son environnement, son mouvement perd de l'énergie sous une forme ou une autre. Frottement, lumière, chaleur, etc. Pour résumer tout ça, et faire simple, on n'a rien sans rien. Il faut qu'il y ait transformation, vie égale transformation, transformation égale énergie, vie égale énergie. On n'a rien sans rien, ça veut dire en clair que pour pouvoir exploiter de l'énergie à son profit, donc transformer l'environnement, l'humanité doit extraire de l'énergie de son environnement et en nourrir des convertisseurs. Est-ce que jusque-là, on est bon ? J'ai perdu personne ?
Juste les convertisseurs ? C'est par exemple, vu qu'on ne peut pas s'alimenter d'énergie solaire, on utilise des plantes qui
transforment. On y vient. Donc on prend de l'énergie dans l'environnement et on met cette énergie dans des convertisseurs. Typiquement, l'idée de base, c'est qu'on a une énergie primaire, on la prend, on la met dans un convertisseur, on en sort une transformation. Ça, on s'en fout. Alors, on va regarder les sources d'énergie primaires existantes. Est-ce que vous pouvez m'en citer, tiens, vous faire participer un petit peu. Source d'énergie primaire, sauf ceux qui voient l'ordi. Ils veulent tout dire. Ouais. Ouais.
Les infrarouges du soleil.
Le soleil.
La chaleur de la Terre.
Ouais.
La gravité.
Oui.
La nourriture.
Les animaux.
Ouais.
Les insectes, les vers de terre.
Source d'énergie primaire, non, là on est plutôt sur un être vivant, quoique, si on en brûle plein. Si on ramasse plein de vers de terre, qu'on les fait sécher, qu'on les brûle, on peut probablement faire un truc. Ou si tu les manges. À ce moment-là, c'est toi le convertisseur.
Les calories
végétales ou animales. Ouais, alors tout ça, on range la nourriture, on range tout ça dans la... Du coup, moi je range ça dans la biomasse. Voilà. Biomasse, bois. Moi j'ai 7 grosses familles, soleil, eau, vent. Bois slash biomasse, donc dans biomasse, je mets bois. Tout le vivant.
Le bois, si tu n'as pas d'eau ni de soleil, tu ne fais pas de bois.
Ouais, ouais.
C'est un primaire, en gros, c'est le soleil.
C'est quoi les questions?
La sortie du soleil, tu n'as pas grand-chose en fait.
Oui.
Soleil et chaleur du sol.
Absolument, non mais je suis d'accord. Prenons, là on regarde les énergies primaires qui sont à notre disposition. Donc on a, au-delà du soleil qui fabrique tout, on a quand même accès à d'autres trucs. On a, au-delà de la biomasse, on a aussi accès à du charbon, du pétrole et du gaz. Alors, les...
C'était de la biomasse, hein.
Ça, qui a été de la biomasse très lentement transformée. Nous avons du soleil, de l'eau, du vent et du bois et de la biomasse qui sont des renouvelables. Renouvelables, ça veut dire potentiellement infini si on ne fait pas les cons. Et derrière ça, on a charbon, pétrole, gaz qui sont les fameux fossiles. Qui sont, comme on sait toutes et tous, limités en quantité.
Potentiellement infini si on ne fait pas les cons non plus.
Potentiellement infini si on ne fait pas les cons non plus, mais dans ce cas-là, pas faire les cons, ça veut dire pas ou très peu les utiliser.
Ouais, mais ça se renouvelle quand même sur des millénaires, enfin sur des...
80 millions d'années.
Ouais, on est en milliards d'années. On va y venir.
Là, il faut tout effacer.
Il
n'y
a plus d'air comme du charbon.
Je vais donner une réponse pour ça. Effectivement, ça, pour le coup, non, ce sont des énergies purement non renouvelables. Et une fois que les stocks sont épuisés, ils sont épuisés. Pour faire très court, On y reviendra ensuite, mais une fois que les stocks d'énergie fossile, charbon, pétrole, gaz... alors, de toute façon, pour faire encore plus court, on n'ira pas au bout de leur exploitation parce qu'on n'aura pas assez d'énergie pour aller au bout. Ce sera probablement la raison. Ce ne sera pas pour dire on arrête de tout cramer, sinon on va tout cramer. Le charbon est une roche sédimentaire. Alors, bon, le soleil, l'eau, le vent et le bois et la biomasse, tout le monde voit comment ça fonctionne. Donc, dans biomasse, je mets aussi, on va y revenir aussi, les animaux qui ont mangé des plantes, qui sont mangées par des gens. D'accord ? Par exemple. Dans ce cas, nous, en tant qu'humains, si on mange un animal, on est convertisseur d'un convertisseur. La plante qui a fait de la photosynthèse, qui a converti, qui a été convertie par un animal, et nous, on reconvertit l'animal en énergie pour nous. Okay ? Le charbon, alors là, on va regarder les fossiles. Le charbon est une roche sédimentaire combustible qui se forme sur plusieurs millions d'années à partir de l'accumulation de débris végétaux qui vont sédimenter et carboniser progressivement à la suite d'une modification graduelle des conditions de température et de pression. Le processus de carbonification prend environ 300 à 500 millions d'années. Le pétrole est un combustible fossile dont la formation date d'environ 20 à 350 millions d'années. Il provient de la décomposition d'organismes marins, principalement du plancton, accumulés dans des bassins sédimentaires au fond des océans, des lacs et des deltas. La transformation de la matière organique en pétrole s'échelonne sur des dizaines de millions d'années. Le gaz naturel est un combustible fossile présent naturellement sous forme gazeuse dans les roches poreuses du sous-sol. Il est généré à partir de la sédimentation de matière organique vieille de plusieurs millions d'années. Dans les trois cas, on est dans des cas de plusieurs millions, voire plusieurs centaines de millions d'années, et on est dans des cas de cocotte minute géante avec de la sédimentation systématiquement, c'est-à-dire des générations de générations sur des millions d'années de trucs vivants qui crèvent, qui se retrouvent enfermés comme dans une cocotte, donc dans un milieu, et qui, faisant tout ce boulot chimique, se transforment en quelque chose que nous, on peut aujourd'hui exploiter. Ça, comme ça, la base est faite. Alors, au départ, Homo sapiens, pour le coup. Homo sapiens, il utilise quoi ? Parmi ses énergies primaires, bah, du soleil, de l'eau, un peu du vent, probablement, ça dépend des endroits et des contextes, et du bois et de la biomasse. Bah, du soleil, parce que c'est quand même plus facile, quand on se met dehors, de se tenir à 37 degrés, plutôt que de faire du feu H24 en permanence tout le temps. De l'eau, parce qu'on est composé de plus de 50% de flotte et qu'il nous en faut pour de base pour fonctionner. Et puis la biomasse pour le miam-miam et le bois pour se mettre un peu à l'abri. On peut rajouter là-dessus, donc nous, à ce stade-là, on est capable de donc, transformer en tant que convertisseur, nous, de la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale, directement pour notre propre énergie en tant que nous convertisseurs. Pardon, j'ai donné un bon coup dans le micro. En tant que nous, en tant que convertisseurs, on est capable de convertir directement. Donc, du soleil, de l'eau et de la biomasse. Après, ce qu'on fait avec nos bras, une fois qu'on a pu convertir de l'énergie et qu'on a suffisamment d'énergie pour faire une transformation, nous, on n'est plus dans la conversion, on est dans l'utilisation de cette énergie qui est convertie. Et avec nos bras, on va faire des outils. Et là, on va commencer à pouvoir utiliser du bois, utiliser le vent, fabriquer des outils pour harnacher le vent, harnacher le bois, voilà, fabriquer des choses. Mais clairement, ce qu'on convertit, ce dont on a besoin de convertir, sinon bah, la machine ne fonctionne pas, hein, c'est du soleil, de l'eau et du miam-miam. On est ensuite capable, une fois qu'on a fait un peu de miam-miam et qu'on a un peu d'énergie, on commence à être capable de se faire des petits copains, ou pas, hein, ça dépend du rapport qu'on garde avec eux, mais avec d'autres animaux que nous-mêmes, pour nous aider. On vit avec d'autres animaux dont on va utiliser la capacité de conversion aussi. Alors, je ne vous fais pas un dessin, on bosse avec des chevaux, des bovins pour transbahuter des choses qui sont trop lourdes pour nous. Et en échange, on les tient prisonniers et on leur donne à manger. Parce que si on les tient prisonniers, on est obligé de leur donner à manger. Donc là, on a vraiment une base avec laquelle Homo sapiens se démerde pendant très 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 longtemps, la majeure partie de son histoire. Tout ça est grosso modo, pour faire très 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 simple, on est d'accord qu'il y a des évolutions technologiques au fil du temps, etc. Mais avant la première révolution industrielle, donc avant il y a 2 siècles, nous sommes en tant qu'espèce sur l'entièreté de la planète, sur un mix énergétique, donc les énergies qu'on utilise, 100% renouvelables. Le soleil est 100% renouvelable, l'eau est 100% renouvelable, le vent est 100% renouvelable, le bois et la biomasse, c'est 100% renouvelable. Un cheval, c'est renouvelable. Une vache, c'est renouvelable. On peut même considérer qu'un humain, c'est renouvelable. Donc le fameux mix 100% renouvelable dont on nous cause aujourd'hui, quand on cause énergie, d'aller vers du 100% renouvelable, en fait, on en revient du 100% renouvelable. Il y a 2 siècles, on était encore 100% renouvelable. On commence à être plus du tout 100% renouvelable quand on commence à toucher au charbon. Et quand on commence, en fait, d'abord avec du bois à inventer des moteurs, et en se disant, bah, c'est vachement sympa le bois pour faire tourner des moteurs, mais si on avait accès à des sources d'énergie plus denses, les moteurs, ils iraient plus fort, plus vite. C'est là qu'on commence à sortir des fossiles pour aller foutre ça dans des moteurs, pour dire, on va y aller plus vite, plus fort, ça va mieux marcher, et on va pouvoir... Ça va surgir sur quoi ? Sur l'industrialisation. En Europe, dans un premier temps. Et là, on sort complètement de ce mix 100% renouvelable. Alors ça, ben, du coup, il va falloir que je vous le montre. Tac, tac, tac.
On arrivait déjà à détruire la planète avant l'énergie fossile.
Source.
On détruisait la planète, mais on mourait. On mourait avant d'arriver à détruire complètement. C'est-à-dire que les civilisations s'écroulaient parce qu'ils avaient niqué leur environnement, puis après la nature reprenait dessus. Là, on a fait tout le tour et on a le même problème.
Il y a eu la surexploitation du bois en Angleterre, typiquement.
Oui,
en fait, il y a beaucoup de gens qui disent que la forêt anglaise elle a été sauvée par le charbon.
Alors ça, du coup, il faut que je vous le montre. Donc là, on a une image de l'évolution de la consommation mondiale d'énergie primaire de 1850 à 2019. Hop, je ne sais pas, alors vous êtes un peu loin, ça va être difficile de voir. Mais grosso modo, vous voyez le type de courbe qu'on a là, vous me dites si je dois me placer différemment. La barre verte qui est ici, c'est la biomasse. Et elle ne bouge pas. Elle n'a jamais bougé au niveau mondial. Tout ce qu'on voit venir ensuite, le noir, c'est le charbon. Le rouge, c'est le pétrole. Le jaune, c'est le gaz. Purée, la vache, je ne sais pas lire à l'envers. Le petit bout de vert, là, c'est le nucléaire. Au-dessus, on a l'hydroélectricité. Et encore au-dessus, on a les renouvelables modernes, c'est-à-dire le photovoltaïque et l'éolien électrique.
Ici, on ne voit même pas.
Voilà, on ne le voit pas et ça ne représente rien. Et alors, ce dont on cause en permanence, quand on parle de transition énergétique, 100% du temps de médias ou de discussions collectives qui sert à discuter de transition énergétique se focus sur ces 3 micro-lignes du dessus, là, qui, on le voit clairement, ne servent... Alors, 1, ne servent à rien dans le mix, représentent un pourcentage absolument minable de l'ensemble de tout ce qu'on utilise collectivement en tant qu'espèce, et de 2, ne fonctionnerait pas sans les fossiles qui sont inscrits en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire, ce schéma ? Ça veut dire que quand on vous parle de substitution des énergies, c'est-à-dire substituer des renouvelables aux fossiles, ça n'existe pas. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'humanité. On ne peut pas, techniquement, remplacer à consommation égale à consommation égale, on ne peut pas remplacer ce qu'on consomme aujourd'hui en termes d'énergie au niveau des fossiles par du renouvelable. Troisième point, les nouveaux renouvelables, l'hydroélectrique, le nucléaire et tous les renouvelables modernes ne fonctionnent pas sans un minima d'input de fossiles. Et d'extractivisme, mais de toute façon d'aller extraire tout ce que tu veux pour que ces technologies-là fonctionnent.
Et de sol.
Et d'emprise au sol, ouais, par exemple, aussi. Mais si on se concentre, si on fait un focus pur énergie, on a la substitution n'existe pas. C'est-à-dire pour l'instant, ce qu'on a fait, comme vous voyez dans le graphique, c'est qu'on a superposé tout de plus en plus. Aucune énergie ne s'est substituée à une autre. La base d'utilisation de la biomasse est toujours restée la même jusqu'ici. On a juste superposé. Et chacune des exploitations, plus on avance dans le temps, alors là, je fais très schématique. On peut effectivement discuter de cas particuliers dans des contrées particulières du monde à tel moment. Historiquement, effectivement, il y a parce qu'on utilise telle ressource. Mais alors, qui a dit que le charbon avait sauvé la forêt Ouais, mais il venait d'où le charbon? Ouais, c'était du charbon de sol, quoi. Ouais. Mais ça dure pas longtemps non plus. Oui.
Que j'ai découvert ça récemment, c'était la thèse de Jean-Baptiste Pessos qui parle de justement la transition énergétique et j'ai pas encore le temps d'approfondir ce sujet-là, mais où il développait que la thèse de la transition énergétique c'était un subterfuge. Et justement, ça parlait clairement de ce genre de la compilation et des intrications des énergies plutôt que de leur substitution. Et sur l'exemple des minerais, il y avait l'exemple de l'Angleterre aussi, justement, où ils ont dû exploiter les forêts des Landes en France pour obtenir des étés, pour pouvoir venir chercher dans le sol le minerai qui leur servit à substituer leur propre forêt, mais ils n'avaient plus de forêt, donc ils étaient obligés d'aller chercher les étés dans les forêts françaises.
C'est ça. On n'a rien sans rien. Donc, si tu veux fabriquer une mine, il te faut du bois pour étayer le bordel, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de substitution et que la transition énergétique ne pourra jamais exister si, quand on parle de transition énergétique, on dit on utilise toujours autant d'énergie, mais on transitionne sur des sources primaires différentes. On est OK là-dessus? Alors, toutes les sources, pardon, je fais juste un truc. Là, ce n'est pas projeté, donc vous ne pouvez pas le voir. Normalement, c'est fait pour. Toutes mes slides sont sourcées, archi-sourcées. Il y a des fois 4 lignes de sources en bas. Donc, si jamais quelqu'un parmi vous veut mes sources, je vous les file. Ça, je vais juste chercher beaucoup, beaucoup chez le Shift Project pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Celles et ceux qui connaissent auront déjà reconnu largement l'orientation. Tout est sourcé, archi-sourcé. Pardon.
Mais en forêt, il y a tout près, il n'y a pas qu'en Angleterre. Hein, la forêt d'Andenne a été rasée à une époque pour les hauts fourneaux de Chancegrès. Hein. Et c'est le charbon qui a sauvé la forêt. Autrement, il n'y aurait plus d'arbres dans la forêt d'Andenne.
Merci charbon.
Merci charbon. Non, mais tout à l'heure, on parlait d'effondrement de civilisation. C'est aussi quand il y a trop de... Quand on peut pas exploiter, quand il n'y a plus assez d'énergie pour...
Sans le charbon et le pétrole, l'Europe aurait dû s'effondrer.
Alors, à partir du moment où on se met à mettre des fossiles dans des convertisseurs que sont des moteurs, on utilise de plus en plus d'énergie fossile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise de plus en plus de machines pour opérer de plus en plus de transformations. Parce que ça paraît con, mais rappelons-le juste pour le bien-être du moment. Ni les humains, ni les autres animaux ne mangent ni charbon, ni pétrole, ni gaz. Et pas plus d'électricité. Donc le seul truc qu'on fait avec les énergies fossiles, c'est qu'on nourrit des machines. Et nous sommes aujourd'hui une civilisation d'humains qui allons faire des trous dans le sol et qui donnons ce qu'on trouve à manger à des machines pour qu'elles fassent des boulots à notre place. Les machines thermiques et électriques sont des prothèses, en fait, surhumaines, qui travaillent pour nous. Alors une pelleteuse, une petite pelleteuse moyenne, va développer 10 000 fois plus de force que mes bras. enfin que les bras du conducteur de la pelleteuse. Un train va développer 100 000 fois plus d'énergie que ce qui est contenu dans les jambes du conducteur du train. Un avion va développer 1 million de fois plus d'énergie que ce qui est contenu dans les jambes du pilote de l'avion. Et alors, un peu plus proche de nous en termes de rapport, le petit mixeur à soupe, tu sais, quand on va acheter des bons légumes à Mathieu et qu'après on rentre chez soi et qu'on fait bzit bzit pour faire la soupe. Notre petit mixeur à soupe de cuisine mobilise 4 fois plus d'énergie que les jambes de la personne qui l'utilise. Autrement dit, pour faire la même chose qu'avec un mixeur à soupe, il faudrait avoir 4 personnes qui pédalent dans la pièce sur une machine dont j'ai aucune idée de la forme ni de la performance. Voilà. On est donc une civilisation qui a la tête, entre guillemets, d'un parc de machines qui nous servent à faire tout. On cultive avec des machines, on transforme avec des machines, on transporte avec des machines, on cuit avec des machines, on congèle avec des machines, on emballe avec des machines, on construit des maisons avec des machines, on fabrique des bagnoles, enfin bref. Nous ne sommes que machines. Nous ne faisons quasiment plus rien aujourd'hui dans nos vies qui ne soit fait avec une machine qui, elle, bouffe du fossile. Par la force des choses. Okay ? L'électricité qu'on a aujourd'hui, alors nous, en France, on est un peu spé par rapport au reste du monde parce qu'on a une électricité qui est particulièrement décarbonée grâce au nucléaire, pour le coup. Mais dans la majorité des pays du monde, si tu branches ton mixeur, c'est du charbon qui a de l'autre bout, quoi. Qu'est-ce qui fait ce parc de machines depuis, je rappelle, 200 ans. On a fait tout ça en 200 ans. La courbe que vous voyez tout à l'heure, c'est 200 ans. On a multiplié, grosso modo, la puissance musculaire de l'humanité par 200. Si on était juste nous-mêmes des convertisseurs et qu'on essayait de faire des trucs avec juste nos mains, collectivement, en faisant des machins, on aurait 200 fois moins de force. Donc 200 fois moins de capacité de transformation. C'est peut-être un des points d'un bout de débat, c'est est-ce qu'on est en 200 fois moins de force, on a 200 fois moins de capacité de nuire ? Oui, on a aussi 200 fois moins de capacité de fabriquer des trucs cool qui nous servent. Donc, dit autrement, dans un monde sans machines à fossiles, pour que l'humanité vive en moyenne comme aujourd'hui, 2024, il faudrait que chaque terrien ait à sa disposition 200 esclaves humains, 24-24, 7 sur 7. Ça, c'est la moyenne mondiale. Okay ? Donc, ça veut dire que chaque habitant de la planète, en moyenne, faudrait qu'on ait tous 200 esclaves pour vivre comme on vit aujourd'hui. La moyenne des Français, on serait plutôt en moyenne sur 600 esclaves par personne, H24, 7 sur 7, toute sa vie. Pour les Français, au-dessus du revenu médian, qui est à 2000 euros, c'est 1250 esclaves. Voilà. Donc on est entre, pour un Français et une Française, on est entre 600 et 1200, donc on va dire 800-900 personnes, équivalent énergie humain, qui bossent pour nous tous les jours, tous les jours, tous les jours, si on n'a pas les fossiles, pour faire tout ce qu'on fait. Autrement dit, l'équation est impossible. Oui.
J'aime bien retourner aussi dans l'autre sens, se dire, notre pouvoir d'achat, si on n'avait pas le pétrole, on le divise par 600. Vous prenez votre salaire, vous divisez par 600. Voilà. Ça vous donne un
idée. C'est ça. On y vient là. Dit encore autrement, dans un monde sans machines à fossiles, le PIB mondial est divisé par 200. En dessous du dollar, là. Comme la capacité de transformation des ressources naturelles est divisée par 200, chaque objet qui nous entoure coûte 200 fois plus cher. Ce qui est d'ailleurs à peu près ce qui était le cas il y a 150 ans, quoi, en fait. Une chemise, une paire de lunettes, un truc pour se déplacer, la moindre casserole de cuisine, c'était pas des achats qu'on faisait comme on les fait aujourd'hui.
Et ça a duré longtemps.
La paire de lunettes, juste si elle existait.
Il y a 150 ans ? Alors, j'ai pas l'histoire de la lunette, pourtant je suis un gros bigleux, mais... Ah.
C'est bon, mais juste les vitres. La puissance musculaire, c'est humain, parce que l'humanité, elle a cru entre-temps, donc c'est encore
plus. Tu me parles sur cette slide-là ?
Sur le haut de la slide. puissance musculaire de l'humain qui a cru 200 ans. Parce que l'humanité a cru beaucoup. C'est encore pire.
Oui. Oui, oui, d'accord. Donc là, on est sur la partie énergie. Est-ce que tout ça, c'est sur, au niveau de la donne, de la donnée, c'est OK pour vous ? Enfin, c'est pas que c'est OK, genre, quelqu'un a des questions, c'est pas, enfin, on, voilà. On va pas débattre là-dessus. Ça, c'est le constat de base. OK ? Donc, je vous ai dit qu'on démarrait ce truc sur une base. Je vais enchaîner vite sur la suite. Énergie-climat, d'accord ? Donc là, on a fait la partie énergie, on va passer sur la partie climat. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous connaissez cette approche scientifique sur les 9 limites planétaires ? Est-ce que ça vous cause ? Non, d'accord. Donc, des scientifiques du Stockholm Research Institute, je crois, ont quantifié les risques que les perturbations anthropiques, donc générées par l'espèce humaine, font peser sur la biosphère. Donc la biosphère, c'est la planète jusqu'à la fin de l'atmosphère. C'est une étude qui dure depuis plus de 15 ou 20 ans, peut-être même. Elle est mise à jour très régulièrement. Donc l'idée, c'était de dire, on va mettre en place des seuils, qui sont les fameuses 9 limites planétaires, des seuils de... comment dire ? De perturbation, que si on les déborde, en tant qu'espèce, si on les déborde, on met en cause l'équilibre global de la biosphère dans laquelle on vit. Donc pour 9 grands processus impliqués dans le fonctionnement du système Terre, climat, biodiversité, forêt, eau douce, acidification des océans, cycle de l'azote et du phosphate, pollution chimique, aérosol émis dans l'atmosphère, couche d'ozone. Les scientifiques ont défini des limites. Franchir chaque limite augmente le risque de déstabiliser l'environnement planétaire de manière irréversible, avec des impacts majeurs pour les êtres vivants. Première limite planétaire, changement climatique. Alors, on est aujourd'hui sur, voilà, des... Je vous le montre quand même que vous voyez à quoi ça ressemble. Grosso modo, on a un camembert, et il nous représente visuellement si on a dépassé la limite ou pas. Chacune de ces études sur chacune de ces limites est elle-même une méta-étude en soi, donc un regroupement d'études, et vous pouvez aller vous renseigner sur chacune de ces études individuellement. Là, c'est simplement que le Stockholm Research Institute met, en fait, bosse pour dire quelles seraient les limites à ne pas dépasser sur plein de points différents, parce qu'effectivement, il y a des gens qui travaillent sur le climat d'un côté, des gens qui bossent sur la biodiversité, des gens qui bossent sur l'acidification des océans, des gens qui bossent sur le cycle de l'eau, des gens qui bossent sur les forêts, etc. Mais tout ça, c'est fait en silo. Et on ne remet jamais ensemble tout ce qui devrait être vu ensemble. C'est pour ça qu'en termes de vulgarisation, cette étude et sa représentation graphique sont vachement intéressantes, parce que ça nous permet de voir un peu un ensemble. En termes de limites qui sont dépassées, changement climatique. Là, ce serait bien si je pouvais vous montrer les slides, mais je ne vais pas vous les montrer, ou alors je fais très vite et je fais ça genre sportif. Donc on a une évolution constatée des émissions mondiales du seul CO2 de 1860 à 2012 en millions de tonnes. Voilà. Ah, c'est tout. C'est tout. C'est tous les CO2. Toute la famille du CO2. Dans la famille du CO2, je voudrais le gaz. Voilà. Bon, ça, je vous le montre pas, sinon on va passer un mauvais après-midi. GIEC, oui, c'est déjà pas génial, mais j'en ai des pires. Trajectoire d'émission permettant d'éviter le réchauffement à 1,5 ou 2 degrés et trajectoire d'émission résultant des politiques en vigueur en 2020. Donc les trajectoires d'émission permettant de limiter le réchauffement à 1,5 ou 2, ce qui est déjà catastrophique, c'est les verts et bleus. Et les trajectoires d'émission, la rouge, c'est... politique actuelle, c'est ce qu'on fait. Là, on est toujours sur les bouleversements climatiques.
Pour descendre la pente, ça se fait 5% par an, comme pendant le Covid.
C'est un Covid, c'est l'équivalent de l'impact d'un Covid par an. Pas sur le nombre de personnes qui sont décédées du Covid, hein, parce que ça, je suis désolé si parmi vous, il y a des gens qui ont perdu des proches du Covid, mais par rapport à d'autres types de mortalité, c'est, en fait, c'est rien à l'échelle de nos populations. C'était, quand on parle de l'impact du Covid, c'est l'impact de l'inactivité suite au Covid. C'est-à-dire moins de camions partout, moins de bagnoles sur les routes, moins de déplacements, moins de transformations, en fait. moins d'énergie utilisée. La deuxième limite planétaire, on le fait vite, hein. Plastique, nanoparticules, molécules de synthèse. On l'a dépassé. Tendance mondiale actuelle à la hausse de la production de l'industrie chimique exprimée comme la croissance relative de certaines nouvelles entités entre 2000 et 2017. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, parce que de toute façon, elles sont toujours comme ça. Les seuls cours qu'ils ont comme ça, c'est biodiversité. Production mondiale de plastique entre 1950 et 2018 en millions de tonnes métriques. 1950, on est à 1,5 million de tonnes métriques. 2018, on est à 359 millions de tonnes métriques. Donc c'est encore un truc qui ressemble à une exponentielle, hein, même si ça n'en sera jamais une. Production mondiale de déchets plastiques selon le domaine d'utilisation en millions de tonnes métriques. Alors ça, c'est assez intéressant. Donc ça, c'est... Ouais. Production mondiale de déchets plastiques selon le domaine d'utilisation. De 1980, donc là, on est sur un pas de temps beaucoup plus court. 1980-2020. Et alors, à votre avis, quel est le gros truc bleu qui prend la grosse part de la chose? Parce que sinon, j'ai autre, appareil électrique. Donc autre, c'est le gris. Le petit vert, là, c'est les appareils électriques. Non, j'ai le mauve, c'est la construction. Tout petit. Le jaune, c'est le textile. Le orange, c'est l'automobile. Le rouge, c'est les biens de grande consommation. Et le bleu, c'est l'emballage. Voilà. Donc très principalement, on produit du plastique pour le jeter à la poubelle. Ça, on le savait, hein, mais voilà. Bon, on a aussi dans cette démarche-là, on a aussi la vente de pesticides à usage agricole par pays dans l'UE qui fait ça. Et ça, ça marche aussi. Ça collabore aussi au dépassement de cette limite-là. Troisième limite, diminution de la couche d'ozone. On n'y est pas. Ça, c'est un problème qui a plus ou moins été réglé. Donc celle-là, pour l'instant, n'est pas dépassée. La charge en aérosol atmosphérique, c'est pareil. Ils la regardent. On n'y est pas encore complètement. Ou en tout cas, ils n'ont pas encore trouvé de moyen de la chiffrer sérieusement. Parce que c'est ça qui se passe avec ce centre de recherche, c'est que du jour au lendemain, ils t'envoient une mise à jour et ils font « si, si, maintenant, on a trouvé comment le compter et on est au-dessus ». C'est ça qui se passe depuis une dizaine d'années, en général, c'est ça qui se passe. Parce qu'à un moment donné, ils bossent aussi pour savoir comment on va comptabiliser tel truc. Ils ne savent pas. L'acidification des océans, n'y est pas encore, je passe. Perturbation des cibles biochimiques de l'azote et du phosphore, on a dépassé les deux. Et ça, c'est grosso modo principalement les engrais azotés de synthèse. Agriculture. Je vais très vite, hein, on aurait beaucoup plus de trucs à dire, mais on va vite. Changement de la ressource en eau. On a les eaux bleues et les eaux vertes. Les eaux bleues, c'est l'eau des lacs, rivières, nappes phréatiques. L'eau verte, c'est l'état d'humidité des sols et des plantes. Ils ont fait cette distinction très récemment parce qu'ils ont vu que c'était intéressant de regarder les deux. Au niveau des eaux bleues, on n'a pas encore dépassé la limite. Au niveau des eaux vertes, donc état d'humidité des sols et état d'humidité dans les plantes, on a dépassé la limite. Ce qu'ils entendent par là, c'est qu'on a des changements brusques de régime d'humidité des sols, donc des sols plus humides ou plus secs que la normale. La normale étant, dans ce cas de figure-là, les 10 000 dernières années. Pardon ?
Des forêts.
Forêts, cultures, tout écosystème confondu. Donc dans des coins du monde, l'écosystème en place est habitué à une sécheresse quasi permanente et des moussons, par exemple. C'est l'inverse qui se passe. Dans des coins du monde, voilà, t'as trop de flotte là où il en faudrait moins. Enfin, là où c'est habitué à moins, et t'as pas assez de flotte là où c'est habitué à plus. Et ça, c'est généralisé. Changement d'usage des sols. On a dépassé la limite. L'indicateur de risque est retenu, et la perte des forêts en particulier, parce que ces biomes ont des effets rétroactifs importants sur le climat et qu'ils abritent une grande biodiversité. En moyenne, rester sous cette limite impose de conserver 75% du couvert forestier actuel. Le taux moyen actuel au niveau mondial est estimé à 62%. Les causes, très rapidement, sur les causes de la déforestation, je m'arrête un tout petit peu plus longtemps là-dessus parce que la thématique est en bois. Causes de la déforestation dans le monde, 27% industrie, dont l'industrie agricole, 26% exploitation forestière. 23% feux de forêt. 24%, ils appellent l'agriculture itinérante. Bon, la forêt en France métropolitaine, c'est 31% de la surface du territoire, dont 50% de peuplement monospécifique, donc du Douglas, aligné et rien d'autre. 24% de peuplement bispécifique, deux espèces, et 16% de peuplement à plus de trois espèces. Donc en France, on a 16% de gros guillemets, hein, vraie forêt. Cela dit, le reste est comptabilisé dans les chiffres officiels comme étant de la zone forestée. Là, on parle ONF. Et la neuvième limite, intégrité de la biosphère. Alors là, ils ont deux lectures, la diversité génétique et la diversité fonctionnelle qu'ils ne savent pas quantifier. Donc celle-là, elle n'est pas dépassée. Par contre, en diversité génétique, on a dépassé cette limite, qui est en fait la limite érosion de la biodiversité. Là-dessus, on a perdu 69% des populations de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles et d'amphibiens depuis 1970. Voilà. Voilà, voilà. Donc, juste le schéma, il est comme ça. Youpi, la fête. Et donc, on voit qu'il y a quelques années, là où ils en étaient de leurs études, voilà, donc les parties vertes, c'est là où on était encore dans la limite. OK ? Et les parties oranges, c'est le dépassement et le niveau de dépassement. Alors, le niveau de dépassement, je rappelle, c'est conséquences irréversibles sur la biosphère. On a vu un peu les causes pour chaque, et les causes sont systématiquement anthropiques. Rien de tout cela, dit autrement, rien de tout cela n'est... Alors, là, je pourrais me faire taper sur les doigts en disant ça, mais n'est naturel. Même si nous, on fait partie de la nature. Mais bref, rien de tout cela n'est juste un phénomène qui est tombé dans ses eaux comme ça parce qu'il y a eu trop de vent un jour, parce qu'une étoile a pété dans l'espace, quoi. Voilà. Tout ça est mis en œuvre par nos activités.
Pas les activités de n'importe quel humain, mais surtout des humains capitalistes.
Bah malheureusement, dans ces cas-là, on fait une moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain qui n'a rien fait, qui est gentil dans son coin, il fait partie quand même du même sac que les autres. Ah, on ne peut plus d'accord avec toi. Mais ça joue sur la totalité de tout le monde, en fait, du coup. Voilà. Mais on est d'accord que ce n'est pas, c'est pas l'activité de tout le monde.
Non, mais ce qui est intéressant dans cette remarque, c'est l'idée de du fait qu'au début, on utilisait des êtres humains pour produire les choses, et plus ça va, plus c'est du capital, en fait, qui produisent, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est le propriétaire de plein de machines et c'est eux qui produisent, alors qu'avant on produisait avec les mains. Il y a quand même effectivement cette distinction et il y en a qui ont pour objectif d'avoir des robots à la place des humains. Donc voilà, il y a cette tendance aussi à suivre.
Dire anthropocène, en fait ça cache, c'est un capitalocène où, c'est surtout des blancs européens colonisateurs.
Je suis absolument d'accord. Enfin, en tout cas, toutes les étapes de bouleversement climatique qu'on subit déjà maintenant et qu'on va subir dans les décennies qui viennent sont générées par l'activité des premiers pays industrialisés. Donc nous, quoi. On est d'accord. Je suis complètement d'accord. Est-il moralement plus acceptable de continuer de fonder notre organisation sociétale sur les énergies fossiles que de pratiquer l'esclavage ?
Bonne question.
Question piège.
Si je suis pas esclave.
Moralement plus acceptable, c'est-à-dire au vu des conséquences de ce qui se passe quand on utilise les fossiles à ce point-là. Pour nos modes de vie.
Est-ce que tu viens pas de rendre l'esclavage trop cool ?
C'est pas le but. Est-il tout simplement envisageable de continuer de fonder notre organisation sociétale sur une consommation aussi importante d'énergie ? Alors, juste très très rapidement, Simulation de la production future de charbon en millions de tonnes équivalent au pétrole. Sur la base de réserves utiles proches des réserves prouvées actuelles. Nous sommes là. Nous sommes là. À peu près.
On est au pic déjà ?
Ah, on l'a passé.
On l'a passé ?
Charbon ? Charbon, c'est 2050. 2040-2050.
Charbon qu'on peut extraire, mais pétrole, c'était 2010.
Charbon extractible. Liquide, tout pétrole confondu. Nous sommes là, à peu près. Nous, on est là. Donc ça, c'est les liquides.
On n'a même pas consommé à peine la moitié. Il n'y aura plus de bière.
C'est ça. Elle ne coûtera pas le même prix qu'aujourd'hui.
Plus le temps passe, plus ça devient consommateur d'énergie pour aller le chercher. Donc au début, on mettait 1 d'énergie, on obtenait 100. Et maintenant, on met 1 d'énergie, on obtient 20, 10. Et quand on mettra 1 d'énergie pour obtenir 1, ça n'aura aucun sens d'aller chercher. Donc du coup, on ne va pas prendre le reste. Il y a un moment où ça va s'arrêter. Mm-hmm. Deuxième élément, c'est que le pétrole, c'est pas réparti uniformément. Et c'est pas distribué à la légère. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y a chaque fois eu des guerres pour obtenir le fait que le pétrole arrive dans une direction ou dans une autre. Et celui qui décide la direction dans laquelle va le pétrole, c'est celui qui est le plus fort militairement. Est-ce qu'on est les plus forts militairement actuellement ?
Ouais, Et est-ce qu'on a du pétrole sur notre sol ? Non plus. juste le troisième, simulation de la production. Mondiale de gaz. Gaz, donc nous on est là. 2024, on est à peu près là. Voilà. Parce que c'est. On a le total, le conventionnel et le non conventionnel. Voilà. Bon, ces trois courbes servent juste à montrer que grosso modo sur les pas de temps, on va maximum à 2100 et on a systématiquement une baisse d'au moins 50% de la production éventuelle. Pardon ?
Gaz fossile.
Tu penses à quoi d'autre ?
Méthanisation.
Ah, méthanisation.
Je pose la question, c'est gaz fossile.
C'est gaz fossile, absolument, ouais, c'est ça, tout à fait. Oui, c'est ça, c'est uniquement les...
Tout ce qui est méthanisation, c'est toujours la question de combien d'énergie tu mets pour obtenir combien. Et actuellement, ça fonctionne à coût de subvention et à coût d'énergie pétrole. Si tu retires ça, la méthanisation n'est pas rentable.
Mais de toute façon, il n'y a aucune énergie qui est rentable, de toute façon.
Oui, non, mais si actuellement, enfin, jusqu'à présent, tu faisais un trou, tu as de l'énergie qui jaillissait.
Oui,
mais si tu viens mettre un d'énergie pour obtenir un, ça ne sert à rien.
C'est deux.
C'est un pour 20.
Donc, un peu du mal de partout.
Alors moi, j'ai envie de dire, ça dépend pour quoi faire. Ça dépend pour quoi faire. Je vais aller vers le cœur de pourquoi on est là aujourd'hui. 1800... Tu te poses la question aussi ?
Pour surmonter le moral.
Faut que je fasse gaffe. 1800-2023, pourcentage des ménages agricoles dans la population totale. 1800-2023. Pourcentage des ménages agricoles dans la population totale France.
C'est l'inverse.
C'est combien ?
1800. Donc c'est début de l'industrialisation jusqu'à aujourd'hui. Pardon, hein, j'essaie de faire ma petite rotation. D'accord ? Donc on est passé de un peu moins de 70%, quoique ça se discute à plus de 80%, parce que quand on dit ménage agricole, en fait, en 1800... Ils comptaient les hommes. Les femmes n'étaient pas recensées dans le truc. Pourtant, elles taffaient. Hein? Donc, on passe de, mettons, 80% à 1,5%.
La femme était l'esclave, donc c'était...
Oui. Non, ça fonctionnait.
C'est pas en pourcentage d'habitants.
Pourcentage de ménages, c'est ça. Alors, c'est en pourcentage de ménages parce qu'on n'a pas les données à cette époque. Voilà. C'est ça.
Puis il y avait beaucoup de gens qui avaient leur jardin en plus.
Alors là, on parle ménage agricole déclaré agriculteur. On va faire ensuite la... Donc, pour faire simple, en 1800, sur 10 personnes qui travaillaient 35 heures par semaine, si on fait un schéma comme ça...
Ça existait, ça.
Non, non. Sur 10 personnes qui travaillent 35 heures par semaine, 6 personnes travaillaient à plein temps, 35 heures par semaine, et une personne à mi-temps pour en nourrir 4 ainsi qu'elle-même. Est-ce que c'était clair ? Dans la situation de 1800, si vous preniez 10 personnes et que le niveau de base était 35 heures, on avait 6 temps plein et 1 mi-temps. 6 et demi pour en nourrir 3 et demi qui ne touchaient pas du tout à l'agriculture. D'accord ?
6 et demi, ça fait 66% pour les 33.
Voilà. Là, on est passé à... Pour le mettre sous un autre angle, encore une fois, aujourd'hui, sur 10 personnes qui travailleraient elles aussi 35 heures par semaine, une personne travaille 5,5 heures par semaine pour nourrir les 9 autres et soi-même. Une personne travaille 5,5 heures semaine.
Ah ouais.
Mais ça, c'est à quelle échelle ?
France.
France, ben voilà, donc ça va. Parce qu'on est le territoire agricole de la France dépasse la France.
Ben oui, c'est ce qu'on a porté dans la même.
Ah ben, largement, oui.
Combien de terres au Brésil, on exploite combien de terres ?
Bien sûr.
Un hectare de maïs, c'est un hectare de soja.
Non, mais surtout la question, pardon.
Qu'on exploite aussi des terres au Brésil pour le grain.
Alors, ça va encore au-delà de ça. C'est pas ça, pardon. Alors, ça, je vous propose qu'on le reporte sur la partie débat. Il y a plein de choses différentes qui se passent dans plein de sens. Tu as raison, la France achète de la bouffe qui est produite à l'étranger. Donc la France profite, alors comme elle a profité de colonies bien avant l'industrialisation aussi, hein, mais profite d'espaces déglingués ailleurs pour produire des trucs, les ramener en France pour les payer moins cher que si c'était produit en France. Mais à même titre, la France produit sur le sol français métropolitain des choses qui sont exportées. Ça marche dans les deux sens. Juste pour dire, moi, ce qui m'intéresse là, c'est pas tant quoi, ce qu'on produit, comment on le produit, etc. C'est qu'est-ce que font les humains face à ces productions-là, en fait. Si je recoupe les deux graphes, celui de tout à l'heure et celui de maintenant, donc la courbe du pourcentage de la population dans l'agriculture et la courbe des énergies fossiles, on voit tout de suite le rapport. Qu'est-ce qu'on en tire tout de suite comme conclusion ? Si on est passé de 80% de paysans en France à 1%, c'est uniquement parce qu'on a enlevé le travail des humains et qu'on l'a remplacé par le travail des machines. C'est uniquement pour ça. Qu'est-ce qui s'est passé ce faisant ? Alors, on a le secteur agricole. Secteur... Le secteur agricole qui est le secteur primaire. Bonjour les nouveaux. Installez-vous. Secteur agricole, qui est le secteur primaire, qui, donc, on le voit, passe de 80 à 1%. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on a ? On a le secteur industrie, qui, depuis le début de la révolution industrielle 1800, bouge pas tant, voire se casse la tronche ces 30 dernières années. Mais on a aussi, surtout, le secteur des services, donc le tertiaire, qui, lui, explose. Le tertiaire, ça fait l'inverse de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on est passé de... un peu plus de 10% à 80% aujourd'hui. Population française. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en France, on a 80% des gens qui bossent dans le service. Et dans le service, on est dans... on est principalement dans le tertiaire marchand. C'est-à-dire le commerce. Pas le tertiaire service, qui était le seul tertiaire qui existait à l'époque... du début de l'industrialisation. J'entends par là les soins à la personne. J'entends par là l'éducation. Là, on est dans le commerce, quand même. Mais le tertiaire de l'époque, c'était surtout ça. C'était le soin, en fait. C'était, il faut bien des gens qui ne soient pas dans la production pour s'occuper de ceux qui ne peuvent pas s'occuper d'eux-mêmes. Les très jeunes, les très vieux, les malades. Point. Aujourd'hui, nous, le tertiaire qu'on fait, nous, maintenant, 2024, c'est pas du tout ça. Notre hôpital, il est déglingasse. L'éducation est déglinguée aussi. Le tertiaire, c'est je fais ma petite micro-entreprise pour faire mon petit business dans mon coin en achetant des trucs de Chine, en les revendant cher ici, quoi, si possible. Ou autre, hein. Voilà. Ça, c'est pour le constat. Je me suis permis, en prenant donc du coup ce graphe, je me suis permis de faire pour le coup, alors tout ce qui était jusqu'ici, c'était des données scientifiques vérifiées, revues par les pairs, blam. Encore une fois, si vous voulez les sources, je vous les donne. Là, on rentre dans la prospective, et je crois que c'est un petit peu un des boulots de l'arabe. Moi, je me suis permis de faire un effet miroir sur Photoshop, sur les différents graphiques, et donc je me suis permis d'inverser le graphique des énergies et le graphique de la répartition des personnes dans l'emploi ou dans les activités. Je suis désolé, c'est petit.
Les points bas et les points hauts sont presque pareils.
Bah, si on les enlève, les énergies, on retourne dans l'autre sens.
Les énergies renouvelables, tu les avais fait baisser aussi parce que
il a cette
biomasse. Bah, là, j'ai tout enlevé, je suis revenu comme à la base, que à la biomasse en fait. Mais j'ai pas fait des calculs, j'ai fait. J'inverse. C'est juste pour dire, en fait, si on enlève les fossiles, la répartition sociale, là, c'est purement schématique, hein. Mais ça répond, c'est un début de commencer à se dire, est-ce qu'on va commencer à répondre un petit peu à la question ? C'est qu'est-ce qu'on fait, du coup, collectivement, par rapport à ces questions-là ? Je vais finir avant de pouvoir, vu que j'arrive à presque une heure là-dessus. Là, sur la partie limite planétaire et le petit déroulé derrière, ça va pour vous, niveau des données ? Ouais. Donc, moi, ce que j'en tire là, et nous, c'est la question sur laquelle, je reviens sur un truc un peu plus perso, c'est la question sur laquelle on base toutes nos pratiques agricoles. Alors, on peut pas tout faire comme ça, mais nous, ma compagne et moi, on a monté une ferme en réfléchissant comme ça. En 2024, bon, on a fait ça en 2019-2020, c'est le pire truc du monde à faire. De se mettre ce type de bâton dans ses propres roues. Mais, pour le coup, on aimerait bien que cette expérience serve à d'autres. Et du coup, d'où cette question, peut-on se permettre collectivement de ne pas tous, toutes, hormis peut-être des trop jeunes, des trop vieux, des malades, devenir tout court sur le pas de temps de nos existences, parce que la plupart d'entre nous ne l'ont jamais été, paysanne, paysan. Est-ce que c'est tout simplement possible ? Qu'on se mette dans un cas de figure où, et là je divise la salle en deux, on va dire, alors, pour faire style, il y a des gens qui diraient d'un côté, on dirait, là, tout vous de ce côté-là, ce seraient les gens qui voudraient que on arrête les bouleversements climatiques. Les gens qui voudraient vraiment qu'on arrête. Si on veut arrêter les bouleversements climatiques, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire ?
On arrête les machines.
On arrête les fossiles. On arrête d'émettre du CO2, on arrête les fossiles. Donc, ce côté-ci de la pièce... Hein ?
Mais il y a aussi la notion aussi du nombre de la population qui a évolué. Et dans tout ça, c'est quand même la consommation est liée aussi à l'augmentation.
Alors moi, j'aurais tendance à te dire, on fait juste une petite parenthèse, j'aurais tendance en débat, à te soutenir que si la population fait la taille qu'elle fait aujourd'hui, on pompe pas des fossiles pour nourrir la population. La population fait la taille qu'elle fait parce qu'on pompe des fossiles.
La population
fait la taille qu'elle fait parce qu'on a les fossiles.
Il n'y aurait pas autant d'êtres humains.
On ne serait pas autant si on n'avait pas les fossiles.
Il y aurait.
Tout un tas de trucs qui suivraient en fonction. Donc, mais mettons que ce côté-ci de la pièce se dirait soit que des gens qui militent pour dire on veut plus du réchauffement climatique. Donc on ne veut plus qu'il y ait de CO2 qui soit diffusé. Et là, je vais... Donc, gardez ça dans vos têtes. Je ne sais pas trop où je vais, mais on va voir. Et puis mettons que de ce côté-là, Ce seraient des gens qui s'en foutent du dérèglement climatique, mais qui sont très très conscients, genre vous êtes que des pros de la recherche d'énergie fossile, justement, et vous savez très bien que les sources sont taries, à très court terme. Ok ?
Qu'est-ce qu'on fait ?
Vous êtes capable de vous mettre dans ce type de manière de penser. Okay ? Dans les deux cas, d'un côté, il y a des gens qui savent qu'on peut pas, on va pas pouvoir tenir ce modèle, donc il va falloir en fabriquer un autre. Et d'un côté, il y en a qui veulent juste arrêter celui-là et donc en fabriquer un autre. On est d'accord ? Dans les deux cas, on arrive à peu près à la même conclusion. Il faut fabriquer autre chose. Parce que qu'on s'en foute des bouleversements climatiques, même qu'on dise que ça n'existe pas. Très bien. Mais à côté, il y a un côté, d'accord, mettons, on s'en fout, ça n'existe pas. Est-ce que tu vas pouvoir continuer de faire fonctionner ton système et pendant combien de temps pour tes enfants, pour combien de temps pour tes enfants, etc., etc. Donc moi, c'est pour ça que je pose cette question-là. Et pourquoi pas, excuse-moi Thibault, mais je viens à cette question-là. Qui dans la pièce est paysan ?
Moi, j'y étais.
4 ? 5 ? On est combien du coup ? Dans la pièce, là, on est passé à 25.
Il y a 5.
Bon, on a 5 paysans, paysannes. Qui est ou était agriculteur ?
Ouais, c'est pareil.
Non.
Ah non, j'étais paysan.
Je ne suis pas d'accord.
Il attendait ça.
Non, mais on peut être paysan et agriculteur.
Tu peux préciser les définitions maintenant ?
Eh bien, est-ce qu'on peut le faire ensemble ? Parce qu'en ce qui me concerne, un agriculteur ou une agricultrice, c'est une personne qui est à la tête d'une entreprise agricole. Et encore une fois, à mon sens, mais voilà, une paysanne ou un paysan, c'est, grosse guillemets, l'artisan, l'artisane du pays. C'est quelqu'un qui vit dans son pays, au sens où, dans le temps, le pays, c'était grosso modo là jusqu'où tu peux aller à pied dans la journée et revenir, avec les trois quarts des vieux du bled qui n'avaient été jamais allés au-delà de là où ils pouvaient aller et revenir dans la journée à pied pour aller à la messe, quoi. Et tu n'es pas forcément dans la partie agricole. C'est-à-dire que tu peux être paysan, paysanne. Exactement. Merci. Tu participes de la vie du pays local sans forcément être l'idée qu'on se fait, c'est-à-dire avec une faux dans la pâture ou le machin. Cela dit, on verra dans la partie débat, mais probablement que tu as quand même une activité agricole tout ou partie du temps. D'accord ? Mais pas forcément tout le temps. Si tu es forgeron, par exemple, au sens paysan du terme, à mon sens, si tu es, pardon, je suis désolé, si tu es forgeron, forgeronne, au sens paysan, tu vas chercher le bois qui fait tourner ta forge. Voilà. Alors, on aura un débat probablement intéressant. C'est ma définition, d'accord ? Je considère qu'on peut être agriculteur sans être paysan. Ah, d'un coup, ça fait sens pour vous. Donc là, il y a peut-être un truc à définir, mais en fait, moi, j'impose rien et je ne suis pas là du tout pour imposer une idée. Je dis juste que, en ce qui me concerne, je fais la division. C'est-à-dire que surtout, ce qui m'importe pour moi dans mes démarches que j'ai depuis plus de 10 ans sur mon activité, c'est est-ce que je peux être paysan sans aller chercher le revenu. Est-ce que je m'appelle agriculteur si je ne vais pas chercher le revenu ?
Le salaire ?
Oui. Le revenu, tout court, parce que le salaire dans l'agriculture...
Il
n'y
a pas de revenu parce qu'ils vendent tous à perte.
Oui, non mais là on parle on peut parler d'un système. Et d'ailleurs, pour le coup, cette discussion tombe incroyablement bien dans l'actualité de tout de suite.
Le but de la vie, c'est de chercher le revenu.
Alors, si tu as une entreprise agricole, tu as plutôt intérêt, effectivement, à générer du revenu. Mais justement, comment on va appeler les gens qui font de l'agriculture, mais qui ne cherchent pas le revenu ? En existe-t-il seulement ? Ah, peut-être qu'à un moment donné, on peut faire une sorte de séparation. Moi, c'est pour ça que je parle de paysannerie dans le cas présent.
Les rentiers du 7e arrondissement à Paris.
Exactement, ou bien.
C'est là où il y a le plus d'agriculteurs en France. Étonnant.
Excellente info. Tu veux dire propriétaires terriens qui font exploiter.
Ils sont à NSA et tout ça.
T'es agriculteur, à partir du moment où t'as des terres, t'as plus de 3 hectares.
Moi, j'ai pas 3 hectares et je suis agriculteur. Hein.
Parce que t'as une équivalence reconnue dans tes productions.
Là. Ouais.
La reine d'Angleterre est une des personnes qui touche le plus la PAC.
Elle prend de mon appel.
Les deux.
Elle en est
morte. Trop de PAC.
La reine, elle en est morte. Non, mais c'est Charles qui touche. Hein. Donc, tu ne dois pas avoir beaucoup de terre.
Non, mais là, moi, ce que j'ai retenu tout à l'heure, en consommant pas de pétrole de tout, le revenu est divisé par 600.
Pour un Français moyen, oui.
Ça fait mal, ça. Donc on est à 2 dollars par jour.
Grosso modo, c'est l'idée.
Moi, j'ai une question pour toi.
Alors, je propose juste un truc, pardon, je vais un peu faire l'animateur, mais si on passe dans la partie débat, parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de se faire... Alors, comment ça se passe? Est-ce que c'est moi qui anime? Comment? Qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe un truc? Moi, je veux bien... Tu m'as proposé quoi?
C'est peut-être mieux que ce soit pas toi, du coup, quelqu'un qui juste...
Ce serait chambé. Est-ce que une personne, une ou un volontaire, est parti pour est chaud pour faire distribution parole, donc relever les personnes qui lèvent la main, parce que je vous propose qu'on fasse un truc, c'est qu'on ne se parle pas dessus, sinon ça va être nimp. Toute personne qui souhaiterait prendre la parole pourrait juste lever la main. Il y aurait quelqu'un qui noterait, qui a besoin de causer, et puis ensuite il y a distribution de la parole au fur et à mesure. Ça intéresse quelqu'un?
Moi je veux bien, mais du coup le plus simple ce serait que les gens ils passent 1, 2 ou 3 pour leur parole.
Ouais.
Essayez de regarder qui
veut
parler avant ou après vous,
comme ça. Si tu veux, j'ai du papier et des crayons ici.
On peut faire ça avec les doigts,
ça sera plus facile.
Vous voyez comme vous voulez, ok.
Ouais,
et aussi ça peut faire attention à la répartition genrée de la parole. Donc qu'on fasse attention que ce ne soit pas que des hommes, des personnes assignées hommes. Donc, si vous voyez, c'est que des personnes signées qui parlent, attendre plus longtemps peut-être pour que des personnes assignées, femmes ou trans, prennent la parole.
Yes!
Ouais.
Ça, du coup, faut que ça tourne aussi ou.
Bah, c'est bien, au moins ça oblige à pas tous parler en même temps.
Ça va. Si je lui dis. Si je lui dis. Comment dire, j'appuie sur le bouton, il va continuer de tourner.
Non. T'as appuyé sur quoi?
J'ai rien appuyé.
T'as rien appuyé, bah du coup ça continue d'enregistrer.
Ouais, je laisse comme ça. Ouais, ouais, il est ok.
Du coup, il faut passer le téléphone avec.
Je passe la totale, quoi.
Tu peux peut-être le. Verrouiller l'écran, comme ça, on est sûr.
Oui, c'est ça que je. Pardon, verrouiller l'écran. Si je verrouille l'écran, il tourne encore.
Oui, oui, c'est bon.
Tiens, le voir. Okay.
L'enregistrement, c'est dans quel cadre? C'est quoi, en fait?
Ouais,
c'est pour que ça aille au flic après.
France Info, demain.
Non, mais je peux dire, pour les prises de notes, pour le rendu.
D'accord. Ok.
Regarde ça, je vais faire un sandwich.
Les idées pour, sur le compte rendu de l'arabe, du coup, cet enregistrement.
Faire un podcast.
Oui, je le mettrai. Je ferai un petit article pour parler d'atelier. Je mettrai peut-être 2-3 sources. Bref, et je mettrai l'enregistrement du truc. Bah, en gros, il y aura tout sur le site internet la-rap.net.
Donc, je me permets juste de recentrer le contexte. Et c'est probablement ce que je ferai jusqu'à la fin, jusqu'à la suite. C'est la question posée, c'est peut-on se permettre, à court, moyen terme, de ne pas tous, toutes, devenir paysans, paysannes. Ou dans des collectifs qui pratiquent la chose. Voilà.
Sachant que par paysan, t'entends des gens qui se déplacent à pied, quoi.
Non.
Oui, c'est ça.
Alors, voilà, on va refaire ce truc. Personnellement, je fais une distinction agriculteur paysan, grosso modo, pour dire que il peut exister des alternatives. Tu aurais le droit de faire une production très 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 correcte dans ton coin pour toi, ta famille, on va dire, sans forcément vendre quoi que ce soit de ta production.
Moi, je suis agriculteur.
Paysan.
Mais par, alors, pour
d'autres... Selon...
Pour, non, moi, je me considère aujourd'hui comme les deux. Je suis agriculteur parce que j'ai une activité agricole déclarée. Je cotise à la MSA. Alors, Je suis en train de me rendre compte que je vous ai peut-être mis dedans avec cette connerie-là, d'accord ? Mais moi, c'est juste qu'en fait, il y a un truc qui commence à me saouler. Je vais vous expliquer pourquoi ça me saoule, comme ça on fait le tri, d'accord ? Non, pas vous. J'entends parler des représentants politiques plutôt bornés à gauche, de paysannerie, en causant des gens de la FNSEA.
Moi aussi, ça m'énerve.
Et à un moment donné, je me dis que le néolibéralisme ambiant actuel reprend beaucoup de nos mots pour détourner tout le bordel. Moi, j'aime bien, des fois, passer 5 minutes à redéfinir quelques trucs pour se dire, est-ce que nous, entre nous, on ne ferait pas une différenciation ? Alors, je suis d'accord, ça pourrait être en soi une discussion de 5 heures.
C'est ça.
Moi, je vous propose ma définition. Je considère... Alors, si elle ne vous convient pas, on en cause. Ce que j'ai envie de dire, c'est est agriculteur toute personne qui est à la tête ou employé, mettons, par une entreprise agricole. À côté de ça, est paysan ou paysanne toute personne qui est liée au métier de survie, j'ai envie de dire, de subsistance, de son écosystème proche. Est-ce que c'est une... Alors,
moi, je suis les deux.
Eh bien, moi aussi. Moi aussi, je suis les deux.
Donc, c'est pas où.
Mais ça veut dire que dès que c'est un potager...
Mais est-ce que j'ai dit où?
Il y en a qui le sont pas, quand même.
Est-ce que si t'as un potager, t'es paysan?
Ben oui.
C'est peut-être que ça soit concret comme ça.
Eh ben ouais.
Donc est-ce qu'on peut se permettre de pas tout savoir en potager?
Oui.
Ça marche comme ça, la question?
C'est ça la question.
Donc gros.
Non.
C'est-à-dire qu'il faut que chacun soit capable de survivre de sa propre production dans ton modèle?
Bah écoutez, discutons de ça, parce qu'apparemment c'est déjà un point intéressant à causer.
Alors n'oubliez pas, 1, 2, 3. Donc voilà, vous dites avec vous.
Déjà.
1. Et je pourrais ajouter juste une règle, c'est que si en fait on n'a pas compris ce que la personne est en train de raconter, de ne pas attendre un quart d'heure avant d'avoir la parole, on peut faire ça. Oui. Comme ça on a le droit de juste poser une question. Mais on rebondit pas. C'est de clarification.
C'est clarification.
Et on rebondit pas, juste on pose une question si on n'a pas compris un truc.
Et si il faut recentrer un peu le débat ou quoi, et ben je fais comme ça et ça veut dire... ça vous va?
Ça veut dire quoi?
Et ça veut dire on prend un temps de pause et on se
détend un coup.
Et si on est d'accord, merci de tenir mon bras. Et si on est d'accord, pas besoin de dire ah ouais, je suis d'accord, on peut juste faire ça. Comme ça, ça... désengorge un peu l'espace sonore.
On va peut-être déjà faire les numéros.
On va faire ça.
Oui, c'est ça. Si tu veux le faire plus poliment, ça peut être mieux pris que comme ça. De dire recentre-toi. Enfin, en tout cas, essaye d'aller un peu plus vite pour que d'autres personnes puissent parler.
Bon, alors pour les personnes qui sont pas encore hyper dans ce type de manière de causer entre eux, ça paraît hyper chiant. D'accord ?
Pratique.
Mais, croyez-moi, ça marche super bien. Si cet atelier ne sert à rien à part transmettre un peu de ça, ce sera déjà ça. Je vais vous laisser aussi passer le micro.
Moi, j'ai une petite interrogation vis-à-vis de ce que tu penses, vis-à-vis de l'évolution des techniques. C'est-à-dire que En 200 ans, on a fait des progrès techniques et de compréhension sur l'énergie, comment fonctionnaient les systèmes, tout ça. Est-ce que pour toi, il n'y a pas un cliquet qui nous permet de développer moins d'efforts pour avoir de meilleurs rendements, même si on en revient à des systèmes plus simples ? Typiquement, je ne sais pas, par exemple, l'électricité, moi, je pense que ce n'est pas compliqué à générer et ça peut peut-être nous aider à faire quelques petits trucs, même à système simplifié. Qu'est-ce que tu penses aussi des mouvements low-tech qui veulent apporter des outils efficients? Je peux pas, je sais pas si tu veux répondre.
Du coup, moi, alors, un des problèmes, c'est que merci beaucoup, j'ai voulu aller peut-être un peu trop vite sur le constat initial sur certains points. Il faut qu'on arrive à se dire les énergies sont... Alors, les énergies fossiles, à l'échelle où on les utilise aujourd'hui, nous mènent à notre perte. C'est clair. La grande question, et je pourrais ajouter ça dans le débat, c'est que à l'heure actuelle, par exemple, utiliser des basses technologies ou une électricité qui, pour le coup, en France, est assez décarbonée, pour faire des choses, zéro souci là-dessus. La grande question pour moi toujours, ce sont les pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec l'énergie qu'on l'ait ou pas. Parce qu'en fait, à l'heure actuelle, et même de tout temps, on aurait très bien pu, si on avait anticipé les choses, dire « Ok, on va utiliser des fossiles, pas de problème, mais on va l'utiliser pour ça, 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 ça. Les ambulances, les flics, l'hôpital, deux, trois trucs agricoles, et puis c'est tout. Et le reste, niquez-vous, en fait. Prenez vos vélos et puis faites vos trucs. Tu vois ? Juste, on va faciliter un peu la vie de tout le monde. Surtout sur, je pense, les naissances, la fin de vie, donc le côté un peu démographique chiant du Moyen-Âge, quoi. Genre le truc où il fallait faire 17 gosses pour en avoir 3, où ton espérance de vie, c'était 32 ans. Tout ça, moi, j'ai rien contre, en fait, en vrai. Hein. Par contre, le problème, ce qu'on fait aujourd'hui avec les énergies qu'on a, qu'elles soient électriques ou pas, c'est qu'on fonce dans des pratiques qui déglinguent. Notamment, on l'a vu, trop rapidement, et c'est un de mes gros sujets, ça m'échouait trop rapidement, on déglingue nos sols. On déglingue tous nos sols. L'agriculture, alors si on parle de la France, parce que voilà, mais c'est mondial, l'agriculture française a déglingué en 70 ans, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale, à vitesse grand V, tous ces sols. On n'a plus de sols, et on n'a plus de matière organique dans les sols. Donc si l'énergie, elle sert à ça, et je pense que du coup, pour répondre à ta question, utilisons celle qu'on a, mais je veux dire, celle qu'on utilise déjà aujourd'hui, on l'utilise un peu pour faire de la merde. Voilà. Et il y a un deuxième point sur l'aspect paysannerie, pardon, sur lequel je reviens tout de suite, ça c'est un truc qui m'embête beaucoup. Pourquoi je pose cette question de pouvons-nous, enfin, avons-nous le luxe d'envisager de ne pas tous redevenir paysans ? Quand je parle de paysannerie, je parle donc d'hyperlocalité. Vous aurez compris ça. Quand je parlais de ce truc de pays, c'est-à-dire, ok, je vis dans un écosystème, et donc, collectivement, avec mes voisins, mes collègues, mes machins, on se sert d'énergies renouvelables qui font partie de cet écosystème, on les met dans nos convertisseurs, nous-mêmes, des animaux, des machines éventuellement, sans problème, je ne suis pas anti-machine, et on les utilise pour faire vivre ce petit pays, quoi. La question, c'est qu'aujourd'hui... tout le monde est en ville. Et en fait, si on fait le bilan carbone de juste l'agriculture française, juste le gazouz qui est mis dans les tracteurs, c'est rien. Ça commence à peser quand on commence à dire le gazouz qui est mis dans les tracteurs, qui laboure, qui dégage tout le CO2, bah là, on commence à bien, bien grimper. Et si en plus à ça, on rajoute la bouffe qui est transbahutée en camtar dans un centre commercial avec tous les gens qui vont tous tout seuls de leur maison jusqu'au centre commercial, tout seuls dans la bagnole pour chercher le truc, là, l'empreinte carbone de l'agriculture française, parce que, pardon, agriculture, c'est un truc dans ton assiette pour toi, miam miam. D'accord ? C'est pas juste pépère, ça te coûte combien de produire ? C'est quand est-ce que ça arrive dans ton bide, quoi. Donc pour moi, c'est pour ça que je parle de paysannerie, en fait. C'est parce qu'en fait, qui dit stop fossile, dit plus possible ces chaînes d'approvisionnement-là. On est d'accord ? Donc, c'est d'hyper-relocalisation que je parle quand je parle paysannerie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oui, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui vont poser des questions.
Merci. Du coup, le débat dure jusqu'à quelle heure ?
18.
Ah oui, ok.
Enfin, en tout, on n'âge que 18.
D'accord, on a le temps. Mais du coup, mesurez quand même que pour que chacun puisse prendre la parole. Du coup, il y avait Thibaut et ensuite il y aura François. Et après, je peux noter Sego pour la suite si tu veux. Tu veux que je t'enlève ?
Oui.
Allez. Donc, voilà.
Alors, ce que j'ai envie de dire, moi, alors, c'est par rapport au fait que on parle d'autonomie, mais on ne parle pas assez d'hétéronomie. L'hétéronomie, c'est le fait qu'on a besoin de choses qui sont extérieures à nous pour survivre. D'accord ? Donc, du coup... là, actuellement, moi, j'ai un peu de pouvoir sur certaines choses, mais il y a certaines choses où j'ai aucun pouvoir, notamment l'approvisionnement de pétrole qui amène de l'essence dans ma voiture, qui me permet d'aller faire des courses. Ce pétrole, il est là parce qu'on a gagné des guerres et qu'on a, par le passé, réussi à faire certains accords qui fait qu'on a apporté du pétrole ici. Quand on voit la courbe, on se dit « Ah, on est à la moitié de la courbe, on a le temps. » Mais en fait, rien ne nous dit que le pétrole restant va arriver jusqu'ici, en fait. Il y a une guerre qui a commencé au Moyen-Orient qui pourrait très bien être une redistribution des flux de pétrole qui pourrait aller vers la Chine et vers les États-Unis et arrêter de venir ici. Donc il n'y a rien qui est en mon pouvoir pour m'assurer que demain, après-demain, il y aura assez de pétrole dans mon pays, en fait, et autour de moi. Donc du coup, je fais quoi, en fait, pour me nourrir, pour nourrir ma famille, voilà. Qu'est-ce qu'on fait si tout d'un coup, le pétrole n'arrive plus? Parce que voilà, c'est une question de survie, c'est tout. C'est notre capacité à aller à l'hôpital, c'est notre capacité d'avoir un hôpital qui fonctionne. C'est... Voilà. Donc du coup, la question qu'il faut se poser de plus en plus rapidement, c'est pas est-ce que dans 70 ans, on sera 70% de paysans? C'est et si demain, dans 5 ans, on a besoin d'être 70% de paysans, en fait? C'est ça la vraie question qui est derrière. Moi, j'aimerais bien qu'on ait le temps, mais ça se trouve, on l'a pas. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais apporter au sujet.
Ouais, moi j'avais deux éléments de nuance. Un élément, c'est effectivement, je pense qu'il y a des technologies sur lesquelles on reviendra pas. Probablement, on les a adoptées pour les conserver. Tu peux penser à des trucs comme le train, le vélo, peut-être l'électricité, j'en sais rien. Mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles c'est des acquis qui nous apportent quand même des gains de productivité et qu'on va conserver. Donc le passé éclaire l'avenir peut-être, mais l'avenir ne sera pas un miroir du passé, ça j'y crois assez peu. Même si dans les grandes lignes, effectivement, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements. Si on devait se prêter au jeu de baisser radicalement nos émissions CO2, ça changerait très très profondément la société française dans toutes ses dimensions. Et très probablement qu'on retournerait une France des années 60 ou quelque chose qui ressemble à ça. Quoi. Ça, à voir, quoi. C'est un pari. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ça advienne, mais ça, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas en ce qui me concerne. Et l'autre élément qui apporte peut-être un peu de nuance aussi, je pense, c'est on est dans une société depuis 200 ans fondée sur la division du travail. Et je pense que c'est un élément important en termes de productivité, de ce que la population s'organise en société avec des métiers spécifiques. Je ne sais pas comment ça survivra effectivement à un hyperlocalisme imposé, si hyperlocalisme imposé il advient. Mais je pense que c'est un élément à prendre en compte aussi. Alors après, effectivement, ça dépend. Moi, quand on me dit paysan, je pense pas forcément ultra local. Enfin, je pense qu'il y a c'est compliqué du coup de partir sur un terme dont je découvre la notion il y a 10 minutes. Mais voilà, je pense qu'il faut penser à cet aspect de la division du travail dans la société et de voir quel impact ça a. Mais il est assez probable que quand même on aura moins de marketeurs digital et un peu plus de gens qui font, je sais pas, de la menuiserie ou de la nourriture dans les décennies à venir, ou peut-être dans les années à venir.
Allez, c'est go. Tu voulais reprendre ou...
Je sais pas si c'est des... Il y a interaction ou...
L'idée, c'est que les gens puissent prendre la parole. Après,
Est-ce que du coup, peut-être parlez-vous entre vous. Des notes ou t'as besoin de mon crayon? Pardon.
Moi, je...
Quelqu'un,
tu prends les notes ? Tu peux faire un genre de rebond, en fait, si tu veux rebondir directement.
Par contre, on peut faire ça.
Du coup, il y a Gilles, après. Il y a Sego, Gilles, qui veut intervenir. Est-ce qu'il y a d'autres mains qui se lèvent pour la suite ?
Moi, j'ai peut-être une, tu vois, après... Juste un petit truc par rapport à la France des années 60. J'avais lu quelque part qu'en fait, pour être à l'équilibre au niveau des ressources planétaires, il fallait vivre comme un Suisse des années 60.
D'accord. Un Suisse des années 60. Ouais. Bon, ça va, c'est encourageant. Je sais pas. Peut-être qu'il faut chanter dans la montagne.
Je sais pas.
ok, du coup, tu voulais intervenir rapidement pour répondre, c'est ça ?
Je sais pas s'il fallait répondre, je sais pas si
c'est
ça tient
à
la dynamique. D'accord.
Si tu vois ça plus comme une discussion déjà
Non,
avec toi,
moi je pense que c'est une discussion de tout le monde entre tout le monde, mais du coup, moi ça me donne envie de réagir, donc je me permets d'y aller. Est-ce qu'on se répond ? Parce que moi, du coup, le truc de Thibaut qui m'a fait réagir, c'est quand tu disais. Bon, alors déjà, par rapport à ce que tu racontais. Clairement, cette division-là du travail, ce sont les fossiles qui nous ont permis de la fabriquer. En grande partie. On avait commencé avant, avec des machines à vapeur, on faisait déjà ce genre de choses. Grosso modo, en fait, pour faire très très simple, Ce qui nous permet de ne pas passer 99% de notre temps chacune, chacun, pour faire simple, à s'occuper de ma maison tient debout. Il y a de quoi avoir pas trop chaud l'été, pas trop froid l'hiver. À manger tous les jours et des fringues sur mon dos. Ce qui nous permet que toutes ces questions-là soient des questions absolument secondaires de nos quotidiens à une très très grande partie de tout ce temps qu'on est. Ce sont uniquement les fossiles. Fossiles qui sont le gros souci, quand même. La grosse tâche dans le truc. Genre, en vrai, si on est raccord, faut qu'on arrête les émissions. Donc, voilà, je pense que si tu le prends, le truc, dans ce sens-là, moi, là, sur la prospective, je sais pas le faire, si tu veux. La question, c'est... Moi, ma question, c'est, est-ce qu'on peut se permettre... En ce qui me concerne, la réponse est non. Voilà.
Alors, c'est go. Moi, quand j'ai vu le thème du débat, je me suis dit, on n'a pas tous paysans, puisqu'on a des paysans localement qui peuvent faire ce travail que de nous produire de la nourriture. Mais donc la question, c'est, est-ce que les paysans aujourd'hui localement peuvent avoir une activité zéro carbone, zéro émission, et produire tout autant? Est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup plus de gens dans les champs? Et c'est ça, c'est une question ouverte. Est-ce qu'on a besoin d'être tous paysans, d'un point de vue juste pour faire à manger, pour pouvoir manger?
Marc, il a une réponse tout de suite, là, c'est ça? C'est très chaud ou c'est pour après? C'est pour après. Ok, donc c'est go, poser une belle question ouverte. Gilles?
Voilà, pour moi, la notion de paysan, elle est d'abord à celui qui, je le définis, à celui qui produit de la nourriture. Et je trouve que on peut l'élargir, hein, j'accepte. Mais dans le débat, le fait qu'il n'y ait pas la notion de celui qui fait de la nourriture complique. Pour ma part, il complique énormément le débat et la discussion.
Est-ce qu'on peut parler, au lieu de nourriture, est-ce qu'on peut parler de besoin de base?
Besoin alimentaire? Non, je parle de besoin alimentaire parce qu'à l'origine. À l'origine, le paysan, ce qu'il produisait sur sa ferme, c'était d'abord pour se nourrir, et après, quand il en avait trop, il vendait. Et je pense aux paysans des pays de l'Est, qui, il y a moins de 20 ans, la majorité des fermes des pays de l'Est produisaient plus sur sa ferme pour se nourrir que pour vendre à l'extérieur. Et donc, voilà, alors dire 100% des paysans, 100% paysans dans la République autonome du Bocage, pourquoi pas? Mais ça veut dire que chacun cultive son jardin pour se nourrir. Et avec un petit peu d'excédent, tu vas voir le marchand de textile, tu vas voir le maréchal Ferrand et autres.
C'est ce qui se faisait en Afrique.
Je voulais qu'on oppose une petite réponse et après qu'on reprenne. Toi, t'avais un truc brûlant à dire.
Moi, c'était pour monsieur. Mais vas-y, c'était pour du coup.
C'est en tac au tac.
Ah, c'est bon.
Moi, je suis maraîcher, on travaille sur 2 hectares et on produit des légumes. Et on nous a déjà dit qu'on consommait du fossile pour faire des légumes. Et on s'est amusé à calculer le nombre de litres qu'on utilise par an. C'est moins que des gens qui partent en vacances dans le sud, en voiture, en famille. Voilà. Donc, oui.
Mais
je n'ai
pas parlé de ça. C'est juste pour qu'on soit clair.
Et après, il y a Marc.
Merci pour ça.
Ça, c'est sûr. Dans votre cas, ce qui crame du pétrole, c'est pas tant votre ferme, bien que... C'est les gens qui viennent chercher des légumes au magasin où vous vendez, encore un coup, ça on sait. Et par rapport à ce que tu racontais juste avant, on peut en discuter de ça, mais les paysans, ils produisaient aussi de la fibre, dans le temps.
Oui, mais je...
Tu vois, il y a de l'alimentation, mais je sais bien que tu le sais, mais ils produisaient de l'alimentation, de la fibre, de l'habitat. Les maisons, elles étaient faites entre paysans. Tu faisais parvenir une boîte d'à 50 bandes de là pour faire ta maison. Les soins aux personnes, ils étaient faits entre paysans. Intrafamilial. Il y avait des systèmes sociaux qui permettaient aux gens de ne pas tout faire avec des bagnoles. Tu vois. Mais du coup, je trouve ça intéressant parce que là, on a une espèce de... Il y a un petit truc générationnel qui se joue là, avec des gens qui ont été ou qui sont encore, en plus. Et je trouve ça super intéressant parce que juste la définition, elle est sympa de la faire parce que nous, on débarque. On a 40 balais, moi j'ai 40 balais. Moi je fais une reconversion il y a 10 ans, je débarque sur un truc, on essaie des machins. Entre deux, il y a eu des générations qui ont vécu que avec la paysannerie moderne ou l'agriculture moderne, en partie. Et je trouve ça intéressant de voir le mix. Mais moi, je suis pour que la définition de la paysannerie soit le plus possible proche de on produit en solo ou collectivement ce qui va répondre à tes besoins directs.
Une autonomie locale. En fait.
Si on veut faire simple, une sorte d'autonomie locale. Alors après, tu peux faire des listes de ce que tu vas ranger dans ce dont tu as besoin. Mais si on dit que avoir un iPad, ne pas avoir d'iPad, c'est pas grave. Par contre, être en mesure de se soigner si tu te coupes, enfin de se faire des soins d'urgence si tu te coupes un bras avec une hache. Moi, je compte dans la paysannerie la personne qui va savoir faire ça dans le bled.
Ah oui. Tu veux pas qu'on garde une petite réserve d'essence comme nous ?
Bah, si, c'est
mieux. On a
l'hôpital
Le Flair.
Bah, il faut encore qu'il y ait un hôpital qui tourne à Flair, quoi.
On aimerait bien, mais s'il y a pas.
Ouais, c'est sûr que si t'attends les pompiers, t'en as pour une heure.
Juste, petit point info.
Et moi ?
Non, mais juste point info. Il y a eu 8 fois plus de prises de parole par des personnes assignées hommes que femmes.
Allez, les filles.
Mais moi, je suis sans genre.
Allez, les filles. Alors, il y a Marquette qui veut...
Si je dis des conneries, arrêtez-moi. Je voudrais citer deux faits. J'ai lu de sources sûres 80% de l'alimentation planétaire est produite par les petits agriculteurs, paysans. 80%. Nous parlons de notre point de vue d'Européens pourris, d'Occidentaux surconsommateurs et tout ça. Deuxième fait, n'oublions pas qu'un tracteur moyen fait le travail de 150 personnes. Supprimons ces tracteurs-là. Déjà, on supprime un tracteur, sachant qu'il y a 40 millions de tracteurs dans le monde. Parlons de notre petit coin ici, Saint-Honorine et Chêne-Bouille aussi. Nous supprimons un tracteur, et voilà, nous avons de quoi employer 150 personnes. Je ne sais pas où on va les loger, mais bon. Ce seront des paysans. Voilà l'avenir, non ? Il faut interroger la Confédération paysanne, installer 1 million de paysans et tout ça. Eh bien, on peut installer bien plus d'un million. N'oublions pas, autre petit fait intéressant que vous connaissez sûrement, moi j'ai appris en cours d'histoire, 80% avant la Révolution sans fraise, 95% de la population française vivait à la campagne, et disons que sur ces 95%, il y en avait 94,5% qui étaient paysans. Êtes-vous d'accord ? Je n'ai pas dit trop de conneries.
Est-ce que je peux changer de casquette pour poser une question ?
Oui.
Qui serait, du coup, à l'époque où 95% de la population française était paysanne et du coup vivait à la campagne, la population française était de combien de personnes ?
Oui, c'est ce que je disais.
Parce que comment est-ce qu'on fait pour que... Parce qu'il y a vraiment la question de l'urbanisation, je pense, qui se pose. Et même là, si on se dit, imagine que le pétrole va devenir de plus en plus cher dans les prochaines années, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont se regrouper encore plus dans les villes parce qu'ils voudront des services. C'est-à-dire que moi, si on me dit maintenant le litre de pétrole il est à 3 euros, 4 euros, est-ce que je vis toujours à Saint-Honorine-la-Guillaume ? Donc le mouvement, il risque quand même de se faire, d'aller vers la ville. Donc voilà, je me posais la question et comment on faisait ça. Du coup, j'ai hacké la parole de Nathan. Je suis désolée, mais au moins ça fait une représentation féminine dans la prise de parole. Donc voilà, les femmes, les filles, n'hésitez pas à prendre la parole.
On aura la réponse à la question dans un instant.
Ah oui, quelqu'un a la réponse, du nombre d'habitants ? Ouais, bah,
mais... 20 millions, pardon.
20 millions, donc ça veut dire que...
Non, on ne l'a pas encore, mais officiellement, on va l'avoir. 27 millions.
En quelle année ?
En 1789.
Ah, il aurait fallu regarder peut-être en 1800,
en
1789.
Ah oui, parce que
ça,
après, c'est la
première question. Moi, je sais pas si c'est pour revenir encore sur la définition de paysan, mais est-ce qu'en fait, un forgeron, un enseignant, un médecin, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il se considérait comme un paysan, non. Si on veut le côté historique et tout. Et du coup, en fait, la définition, elle est en train de changer. Si toi, c'était en train de dire que c'est quelqu'un qui vit sur le pays, peu importe s'il a une production agricole, alimentaire ou pas. Mais c'est du coup, je pense que ça correspond pas à la définition qu'il y avait il y a 50, 100 ans, 200 ans d'un paysan, en fait. Mais du coup, on peut revoir cette définition-là, et c'est très bien. Et juste, après, je vais m'en aller, je suis désolé, je peux pas rester. Est-ce que, du coup, dans le débat de base, là, est-ce qu'on est tous prêts, enfin, est-ce qu'on serait prêts à être paysan ou pas, à main levée, je sais pas si on peut faire un peu un sondage ou quoi, dans 10 ans, ou admettons, si les fossiles vraiment venaient à décroître, est-ce qu'on serait prêts à être paysan, en fait, si? Enfin, je sais pas, qui ne serait pas prêt à être paysan ? Ce qui est totalement normal.
Personne.
Personne ne serait prêt à être paysan ?
Qui, dans 10 ans, qui accepte de vivre sans portable ?
T'as plus de portable dans 10 ans, hein.
La question,
c'est pas...
Dans 10 ans, c'est maintenant.
Est-ce qu'on aura des portables? C'est la question, est-ce qu'on pourrait se permettre un luxe aussi délirant que d'avoir une fenêtre?
Je remplace le débat.
Bah oui, est-ce que tu es capable de faire une fenêtre, toi?
Du coup, j'utilise mon portable, mais ça suffit à ce que disait Nathan. Moi, j'étais en train de regarder la définition de paysan sur Internet. La définition que j'ai trouvée sur Wikipédia, mais il y en a d'autres. Le paysan ou la paysanne est une personne pratiquant une activité agricole ou pastorale, culture du sol, élevage d'animaux en zone rurale, et possède un savoir-faire propre à un terroir particulier. La pratique paysanne a évolué vers des métiers, éleveur, agriculteur ou exploitant agricole. Et il y avait sinon du petit Robert, homme, femme, vivant à la campagne, du travail de la terre. C'était juste pour dire que ce que tu disais, c'était cette définition. Et qu'est-ce qu'elle est en train de venir? C'est peut-être ce que t'apportes, toi, Sylvain, avec une autre vision.
J'ai,
voilà.
J'ai bien vu que j'ai foutu la merde avec ce truc. Autant chez des gens qui ont
eu un passif là-dessus et qui, ont du coup, sont attachés à une culture, qu'il y a des gens qui sont, a priori, qui ne sont pas liés à la paysannerie ou à l'agriculture. Moi, justement, mais je trouve ça intéressant. C'est ça que j'essaie de soulever, là, en partie. Moi, ça m'intéresse moins, très honnêtement, aujourd'hui, on tombe d'accord sur une définition de paysan, mettant des pécores qui font pousser des trucs, tu vois. Mettons qu'on tombe d'accord là-dessus. Bon, ça m'intéresse pas comme définition, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est... Comment s'appelait le monsieur qui vient de partir?
Nathan.
Nathan, qui vient de partir, qui a dit, mettons dans 10 ans, qu'est-ce qu'il a dit, le pétrole est trop cher, on doit tous...
Qui serait prêt,
mettons. Mais alors, lui, pour le coup, sa raison, c'était on doit. Le truc est trop cher. Ou il n'y en a plus.
Non, c'était avant ça.
Non, c'est moi qui parlais de pétrole. Oui. En gros, il a dit est-ce que vous seriez prêt dans 10 ans à cultiver la terre et à être paysan?
Ah, d'accord.
Oui, c'est sûr.
Je pensais qu'il était en. Pardon. Bon, bah, du coup, je pensais qu'il avait dit parce que le pétrole, machin truc. Moi, la question que je me pose, c'est. Comment on fait aujourd'hui pour rester dans le status quo actuel, en sachant parfaitement que si on continue en fait à ne pas être dans un mode de vie beaucoup plus proche en fait des sources de production qui sont indispensables à notre vie, on continue de pourrir le truc en fait. Et c'est ça que je comprends pas encore à ce stade-là de la compète de cet après-midi. C'est que c'est encore ressorti à aucun moment. Tu vois, tu dis, je vais. Enfin, les gens, mettons le pétrole est plus cher, les gens vont aller en ville, c'est la théorie que tu sortais.
Voilà.
Les gens vont aller en ville, parce qu'ils vont voir des services.
Parce
qu'ils n'auraient pas besoin de voiture.
Mais qu'est-ce qu'ils vont manger?
Il n'y a rien en ville.
Pour moi, c'est un très chouette exemple de réflexion dans ce sens-là, de j'ai besoin d'un truc, je vais là où c'est. Plutôt que on a besoin de trucs, on les fait, on les met en place localement, en prenant en compte, peut-être pourquoi pas, le fait qu'à un moment donné, il faut qu'on évolue dans les énergies. Mathieu, il maraîche avec Emilien. Ouais, ils ont un tracteur. Comme il le dit, il crame moins de pétrole qu'une famille qui part en vacances dans le sud. Mais en fait, je veux dire, ils bossent. Le jour où il faut plus de monde, il y aura plus de monde. La ferme, elle existe déjà. Par contre, l'inverse... Installer un truc venant de nulle part, si c'est la merde, on fera pousser des patates. Ça, désolé, mais c'est pas possible, ça. Ça n'existe pas. Comme ça, avec zéro énergie, tu lances pas une ferme en 2 secondes. Il faut, je pense, 3-4 générations avec des familles de 17 personnes pour faire un truc un peu costaud, quoi. Voilà. Et c'est cette logique-là, moi, qui me pose beaucoup de questions. Le fait que, quand dans les discours même là, on se dise... Ah, s'il n'y avait plus de pétrole, on ferait ça. Mais en fait, on sait aujourd'hui qu'il faut qu'on arrête d'en cramer. On le sait déjà. Pourquoi la décision collective n'est pas de dire « Ok, on garde ça pour les ambulances, les médecins, la police, les pompiers. Et pour le reste, on se fout à cabane et on marne, quoi. Enfin, on fait le boulot de ce qu'il faut produire localement. Parce qu'on sait très bien. C'est quoi qui passe dans les têtes? C'est les Chinois feront toujours plus de la merde? C'est vraiment cette question-là de fond, je crois, qui me...
Moi, je pense que c'est ça. Je crois qu'il y avait d'abord toi.
Ouais, mais en fait, j'avais levé la main un peu avant que Sylvain intervienne. C'était effectivement aussi sur
le pétrole sert, ok, à se déplacer. Mais en fait, si, y a pas que le déplacement qui va nous embêter. C'est un peu rebondir sur le fait que si on va tous en ville parce que je peux plus utiliser ma voiture, tant qu'à être bloqué, enfin, y a qu'à voir au confinement, en fait. Les gens qui étaient en ville, enfin, quand il n'y avait plus trop de déplacements, à choisir entre être ici avec un potager et un peu d'espace d'air, d'oxygène, accessoirement, parce qu'on ne produit pas l'oxygène, mais il est un petit peu vital quand même, et être en ville où tu as accès à tous les services, mais en fait, encore faut-il que les services puissent être abondés. Enfin, si tu as un magasin avec pas de producteurs, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Donc, effectivement, comment faire en sorte que les services et ce dont on a besoin ne se retrouvent pas concentrés, mais que ce ne soit pas les gens qui aillent aux services, mais que ce soit les services qui aillent aux gens. Ou au moins soient accessibles à cheval, en vélo, à pied. Puis comme ça, on prend une bouffée d'oxygène en même temps. Comme ça, on va moins chez le médecin. Ça tombe bien, il n'y en a plus. Bref.
Alors, et du coup, j'encourageais peut-être à ceux qui n'ont pas encore parlé, sauf si c'est vraiment brûlant de ceux qui ont déjà parlé. Je sais que Thibaut, ça fait longtemps que tu lèves la main. Est-ce que tu as une intention très rapide et comme ça, les personnes qu'on va parler peuvent aussi échanger. Il y aura ensuite Alice.
Je crois qu'on peut venir. J'interviens juste rapidement. Désolée, je hack le truc, mais parce que j'y vais de suite. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, c'est la diversification médicale. Apparemment, on arrive dans le creux de la vague. Le creux, c'est pour 2028-2030. Moi, je suis un peu soufflée, en fait, qu'on sache tout ça et qu'on n'en parle pas. Et parce qu'au final, ce serait peut-être pas grand-chose que de lancer des formations à la médecine de guerre. Enfin, ça fait peur, c'est violent dit comme ça, mais en vérité, en Chine, il y a déjà des dispositifs qui s'appellent les médecins au pied nu, qui sont en fait des médecins de campagne qui sont définis plus dans les limites de leurs compétences que par leurs compétences réellement. Mais en tout cas, voilà, je suis étonnée qu'il n'y ait rien de tout ça qui soit mis en place. Désolée, je dois y aller. Je passe à qui ?
Et bien, du coup, Thibaut, pour une petite intervention. Tiens. Après, il y avait Maxime. Donc, Thibaut, rapidement.
Oui, alors après avoir cassé le moral sur le fait que potentiellement ça pouvait s'arrêter demain, une autre perspective réjouissante, si on repense au passé, par exemple, à la guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale et au génocide, on se dit souvent « Ah, qu'est-ce que j'aurais fait à ce moment-là et tout, est-ce que j'aurais participé ou pas ?» Bon, bah là, on parlait de 20 millions de personnes qui sont mortes dans des camps de concentration. Alors que le problème qu'on a en face de nous à résoudre aujourd'hui, on parle potentiellement d'extinction de la race humaine. À défaut, 5-6 milliards de personnes en moins sur la planète. Donc du coup, la question qu'on peut se poser nous, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Je suis désolé, mais c'est l'effet.
Alors les amis,
Le téléphone, l'écran s'allumait,
je
ne
sais pas si ça continue
à enregistrer. Est-ce que ça enregistre ? Ah, je ne sais pas, c'est... Je suppose...
C'est Alice, je crois.
Ouais, je suppose que ça continue, mais je ne sais pas du tout.
C'est pas de mien. C'est qui ?
Gilles avait un tac au tac, je sais pas si tu veux le...
Avec deux chiffres. Si tu enlèves le pétrole, c'est Paris, la première ville de France qui meurt de faim.
Vas-y, tiens le micro, je tiens le téléphone.
C'est parce que Paris a une journée et demie de réserve, c'est tout. Ouais. Et le deuxième tac au tac, c'est que la population qui mange le moins à sa faim sur la planète, c'est les paysans. C'est les paysans.
Lesquels ?
Eh bien... Au niveau de toute la planète. Ceux qui produisent de l'alimentaire, c'est ceux-là qui souffrent le plus, qui mangent le moins à leur faim.
Alors, du coup, derrière toi, du coup.
Merci. Moi, tout ce qu'on dit, ça me fait penser, du coup, en perspective pour, dans le bocage, dans l'imaginaire de l'arabe, s'il y a beaucoup plus de gens qui sont paysans, notamment beaucoup sur la production alimentaire, pour être plus autonomes. Du coup, forcément, il y a plein de gens qui font autre chose, qui vont ne plus faire ces trucs-là. Donc, si on perd des traders ou autres, c'est peut-être pas très grave, mais ce sera intéressant de réfléchir à quel métier et quelle autre spécialisation on veut garder et quelles activités des personnes qui ne vont pas être paysannes, enfin, en tout cas, pas produire d'alimentation, on veut dans notre bocage. par exemple, est-ce qu'on veut garder un chirurgien cardiaque ou autre? Parce que si tout le monde passe 70% de son temps à produire son alimentation, son mode de chauffage, et c'est très bien, on est autonome, mais du coup, on n'a peut-être plus assez de temps pour être super spécialiste sur des trucs. Et là, le fait d'avoir, d'avoir eu des spécialisations, ça nous a permis de développer des super trucs. Enfin, voilà, bon, là, je suis un peu redondante, mais voilà, ce sera peut-être intéressant de voir quel métier on veut garder, comment on forme. Est-ce qu'on peut se former à la médecine de guerre, effectivement, ou autre, mais voilà, pour compléter. Je ne sais plus qui était là après.
Après, c'est François.
Ouais, t'as l'air d'être un petit peu en colère, je le comprends, sur comment ça se fait que, sachant tout ça, personne ne bouge, que ce soit à l'échelle de la société ou même à des échelles plus individuelles. Oui, moi, je pense qu'il y a une conjonction d'éléments qui font partie de la réponse, quoi. C'est que, premièrement, on a un discours relativement négatif sur ce qu'est la transition. Alors, quand je veux dire négatif, c'est que c'est systématiquement apporté à de la perte de liberté, de la perte de statut, de la perte de commodité, etc. Donc, c'est... Comment on fait à partir de ça un discours positif de la transition? Ça fait partie, je pense, des choses à inventer dans l'imaginaire. Alors, je crois que l'arabe y contribue, mais bon, ça fait partie des sujets de fond qui peuvent enclencher le truc. Et puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gains individuels à bouger. Parce qu'en fait, moi je suis en... Je suis en cours d'installation paysanne pour des motifs très similaires. Et en fait, premièrement, je fais tout ça en fondant mon capital personnel. Et deuxièmement, j'associe ça à une perte de statut, à un travail plus pénible, à tout ce qu'on veut. Mais en fait, qui a envie de faire ça aujourd'hui, faut être motivé, quoi. Clairement. Et je ne parle même pas des problèmes d'accès à la terre, etc. Enfin, et je pense que tu peux prendre n'importe quel Nima qui se met dans une situation similaire, il va témoigner que c'est un enfer de devenir, en tout cas de pouvoir accéder à du foncier agricole pour l'exploiter. Donc ça, c'est un élément. Il y en avait d'autres. Il n'y a aucune sanction. Donc, discours négatif, complication pour la personne qui veut avancer, et pour tous ceux qui n'avancent pas, ou pour tous les politiques irresponsables qui continuent d'accélérer face au mur, en fait, il n'y a aucune sanction. Je pense que sur ces trois points, on a l'essentiel de la réponse de pourquoi ça bouge pas. Et moi, je pense que ça bougera pas. Il y a des gens qui pensent que le dernier litre de pétrole servira à l'avion personnel de Bernard Arnault, de son successeur. Je fais de plus en plus partie de ces gens-là, malgré que ça fait 20 ans que j'essaye d'agir à différents niveaux, décisionnaires, politiques, etc., à sensibiliser les gens. Et aujourd'hui, j'en suis là.
Ok. Ah, du coup, Clément, il voulait... J'ai juste envie de parler du sens. Enfin, pas de parler du sens, mais d'évoquer le... Ce qui gagne, tout est en négatif, mais en fait, ce qui est gagné, c'est quand même le sens. Ah, d'accord.
Le sens de quoi?
Parce que entre être trader ou être paysan, ou être paysan, t'entends chie plus, mais peut-être que tu respires mieux la nuit, quoi. Je pense que t'endors mieux et que t'es plus aligné. Et les traders, ils n'ont rien à foutre.
Et du coup, est-ce qu'on peut en dire? Excuse-moi, je précise. J'avais la main depuis 8 ans.
Je pense que tout n'est pas négatif, mais je pense qu'il y a une perception majoritairement négative.
Oui, mais c'est pour ça que je mettais en contrepartie le positif.
Par exemple, il a montré une courbe décroissante. Vous avez tous vu une courbe décroissante. En fait, c'est une courbe croissante qu'il faut montrer. Mais on ne l'a pas construit comme ça. Et tous les discours sont comme ça.
C'est pour qui est bon pour parler?
C'est pour moi. Du coup, moi, j'ai noté pas mal de choses. Et il y avait déjà un premier point. Il y a la question du phasage. C'est-à-dire que quand on parlait de « on gardera le vélo, le train » ou plein d'autres trucs... Hein, la question, c'est à quelle échéance dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire que le bocage, c'est pas Paris, c'est pas, je sais pas, la Russie, etc. Et que l'évolution du monde, il est pas globalisé, etc. Première réflexion. La deuxième, c'était sur les imaginaires. Par exemple, la question du local. On voit qu'à l'époque romaine, il y avait déjà des flux massifs de céréales. On a plein de choses qui touchent l'imaginaire, là, depuis tout à l'heure, où le zéro carbone de l'agriculture, il y a une étude qui était sortie, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, hein, mais comme quoi, on a un âge glaciaire qui aurait dû arriver et qui a été évité par le labour,
et donc qu'à éviter une baisse des températures et donc de la production agricole. Et donc, voilà, il y a plein de sujets comme ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? J'avais plein d'autres trucs. Du pétrole, il n'y en a pas assez pour mon pays, mais en fait, il n'y en a jamais assez. Hein. Plus on en a, bah, plus on trouve des usages. Donc voilà, je suis désolé, c'est un peu décousu. Hein. Et si, quand même, dans quelle mesure on est maître de nos destinées individuelles et collectives ? C'est-à-dire que c'est pas la connaissance qui... Enfin, c'est jamais la connaissance qui a fait l'action. Hein. En tout cas, c'est pas suffisant seul, il y a plein d'autres freins. Et dernier truc, et j'en zappe plein, c'est dans quelle mesure les récits ils transforment le monde, c'est ma grande question du moment. Hein. Dans quelle mesure les récits ils transforment le monde, et dans quelle mesure c'est le monde qui change, qui nécessite de nouveaux récits. Et donc, là, on a des récits de, bah, il faut... voilà, il y a le problème carbone, il y a le problème de l'approvisionnement, et donc il faut que le monde change. Mais en fait, est-ce que... en créant des nouveaux récits, comme on fait là, pendant l'arabe précédemment, etc. Est-ce que c'est ces nouveaux récits qui arrivent à faire changer nos pratiques ? Enfin, dans quelle mesure ? Et dans quelle mesure, en fait, c'est le monde qui change, et du coup, bah, on adopte ces nouveaux récits. Voilà. Bon courage ! Suivant !
Alors, du coup, il y a des gens qui attendent depuis un petit moment. Guy, c'était toi. Après, il y avait Maxime... Après, il y a Jules. Ah, je te vois jamais, oui.
Non, pardon, je viens juste de lever la main.
Donc, je te mets après.
J'ai envie d'attendre.
Et moi, je voulais revenir...
Non, on ouvre la porte si tu veux. Mais
parce que ça devient vraiment...
Oui, mais la porte, c'est très froid, les mains.
Ok. Ouais, je voulais revenir sur plusieurs générations pour remonter une ferme. C'est partiellement vrai, enfin, ça dépend quelle autonomie on recherche. Moi j'habite dans un collectif où on a une autonomie alimentaire et énergétique et en 4-5 ans on l'a atteint sans pétrole et sans machine, sans électricité et sans plastique, et que avec des intrants sur place. Après il y a la question de fabriquer ses vêtements, son bois pour la construction et les outils, et ça c'est encore un autre délire. Mais du coup, pour moi, la question, c'est plutôt la perte de confort, en fait, qu'on a. Et du coup, c'est un peu le côté négatif qu'on a. Enfin, de la vision négative, c'est perte de confort du monde industriel. Et ouais, du coup, là, c'est... Bah, dans le collectif où j'habite, il y a une précarité assez forte, d'un point de vue moderne. Et du coup, qui ne donne pas très envie, en fait, aux personnes qui visitent. Les gens disent, ouais, c'est trop stylé, mais moi, j'habiterai pas ici parce que... c'est pas assez confortable. Et voilà, du coup, la question, c'est le confort. Et du coup, ça revient aussi sur la question du soin, de comment réapprendre à se soigner, notamment avec des plantes ou soi-même, ou accepter de plus avoir de lunettes quand on voit pas très bien, et plein de trucs dans le genre. De plus avoir d'insuline quand on est diabétique, et enfin bref, plein de choses. Et du coup, oui, enfin, oui, voilà. Et du coup, c'est des questions liées à l'industrie, du coup, comment on produit, enfin... qu'il y a des personnes qui sont dépendantes de l'industrie médicale, enfin bref. Et du coup, c'est lié au confort. Et... ouais.
C'est la survie.
Ça dépend de ce que tu
veux. Oui. Non, je suis d'accord. Pardon. Enfin...
Ouais, j'avais une demande de clarification. Tu disais que c'était sur un lieu où on était en autonomie alimentaire.
Ouais, autosuffisance alimentaire.
Autosuffisance. Donc, vous produisez toutes vos calories.
Presque. Sauf le blé et l'huile d'olive.
Ok.
Et
vous êtes combien ?
On est 6.
Donc, à part le blé, okay. C'est quoi vos calories du coup ?
Les châtaignes. Et les. Ouais, principalement les châtaignes.
Bah, moi j'ai envie d'applaudir. Hein.
et le sarrasin, enfin quelques céréales, des légumineuses et.
C'est où ?
4 hectares. Alors du coup, 4 hectares pour 6 personnes, il y a aussi les questions de... Est-ce que, en fait, si tous les gens sortent des villes, on a assez de surface en France ?
Ouais. Et est-ce qu'on a de quoi construire des maisons pour les 60 millions, alors qu'avant, on avait 30 millions ?
C'est ça. Mais après, nous, on habite à 6 dans 20 mètres carrés. On n'a pas d'espace perso. 6 dans 20 mètres carrés. Donc en fait, c'est une question de confort. Ouais. Alors après, nous, on n'utilise que 2 hectares sur les 4 pour survivre. Et bref.
Et c'est dans quel secteur ?
C'est à côté de Vire. Et du coup, il y a une autre question, c'est pourquoi est-ce que moi j'ai envie de moins m'impliquer sur ce lieu? C'est parce que pour moi, il y a deux mondes qui s'affrontent. Il y a le monde capitaliste et le monde anticapitaliste. Donc c'est ces questions de pétrole et les idéologies qui vont avec. Et si les gens ne changent pas, c'est aussi... Enfin, pour moi, une partie des militants ne changent pas de mode de vie et ne arrêtent pas le pétrole. C'est parce qu'en fait, l'ennemi, du coup capitaliste, lui, il utilise à fond le pétrole. Et il n'a aucune honte de l'utiliser. Et du coup, il a une puissance d'agir 200 fois supérieure à la nôtre si on n'utilise pas le pétrole. Et du coup, en fait, on affronte des personnes qui utilisent des armes que nous, on ne veut pas utiliser juste par principe. Et du coup, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour abattre le capitalisme si nous, on a une puissance d'agir 200 fois moins puissante, enfin, on a 200 fois moins de puissance d'agir, sachant qu'en plus, on est minoritaire. Donc, voilà, comment est-ce qu'on fait, en fait, et pour, je ne crois pas au changement du système juste par un changement individuel. Pour moi, il faut confronter le système qui se défend, enfin, le système capitaliste se défend par la force et la violence. Et voilà, juste créer des fermes en autosuffisance, pour moi, ça ne résoudra pas le problème. Voilà, donc...
Maxime qui voulait intervenir.
Je voulais reprendre à peu près le même... C'était à peu près sur le même genre d'idée que Guy. J'avais noté sur le mot d'hétéronormie qu'avait utilisé Thibaut, et après sur la division du travail, c'est Mathieu, c'est ça? Non, pardon, François, pardon, j'ai mal noté. Et du coup, sur cette idée que... Enfin, moi, j'espère que ça passe, et enfin, je pense que ça passe sur la question du récit, sur une refonte de notre appréhension du monde en tant que, bah, justement, par le principe d'autonomie, de voir qu'on n'est pas juste des organismes autonomes, individualisés, et que à travers ce concept d'hétéronomie, on peut aussi commencer à comprendre qu'on a besoin les uns des autres. Et quand tu parlais des gens qui retournent vers les villes, c'est aussi pas juste une forme de... Enfin, je crois que c'est pas juste une forme de simplification, c'est aussi le fait qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur l'assistance de personnes spécialisées. Donc ça rejoint aussi quand tu parlais du soin. Donc de comment on fait pour, à travers... Une plus grande relocalisation, enfin tout ce qui peut avoir attrait à la localité, au biorégionalisme, pour recomposer une diversification qui nous permette d'être à la fois paysan, prof, artiste, poète et médecin, et d'accepter que ça passe par autant de spécialisation que de... Enfin, autant par... Je suis désolé, j'ai du mal à clarifier, d'essayer de se recomposer autant en tant qu'individu qu'en tant que part d'une cosmologie, d'un tout, quoi. Voilà. Désolé, j'arrive pas à faire plus clair.
Non, moi j'ai plusieurs questionnements sur qui sont venus au fur et à mesure. La première, c'était bah, actuellement il y a déjà de moins en moins de paysans agriculteurs qui se lancent dans l'agriculture. Il y a de moins en moins de personnes qui se lancent dans l'agriculture, on voit bien au niveau des personnes installées ou en recherche de salariés. Et si on supprime complètement le pétrole ou les énergies fossiles, ça impose beaucoup plus de travail physique, quoi. Et donc il y avait ce premier raisonnement qui trottait un peu, j'ai pas tout à fait eu le temps c'est venu un peu plus vite que prévu, mais et j'avais une... tu parlais de 17 générations sur... je crois que c'est toi qui parlais de ça. 4 générations. 4 générations, oui. 17, oui, c'est beaucoup trop. 4 générations pour construire une ferme, bah, ou construire un tout nageur. Et c'était...
Hein ? Une ferme viable.
Une ferme viable, voilà, c'est ça, ouais.
On survit pas non plus.
Et justement, c'était sur bah, comment on forme aussi les personnes. C'est-à-dire qu'il faut former 80% de la population pour...
si on veut revenir à un niveau de pré-industriel, sur comment on forme aussi les personnes qui voudraient s'installer. C'est deux questions qui me...
C'est intéressant. Donc les questions, c'est comment on forme les personnes.
On met 81% de la population sur...
Ouais.
C'était dans le monde des questions, dans la définition du paysan, le savoir.
Il y a encore après deux interventions, il y a Coco et Françoise. Je me demandais si ça vous intéresserait qu'on passe en petit groupe pour une demi-heure pour essayer de répondre à des questions comme ça qui ont été posées pendant le débat. Je ne sais pas si toi, tu m'as dit que c'était peut-être pas
bon. Ah bon, on fait absolument ce que tout le monde veut.
Parce que, en fait, il y a eu des questions que, perso, j'ai trouvées assez intéressantes qui ont été soulevées. Par exemple, comment on forme les gens, à quoi ça pourrait ressembler concrètement, quel autre métier que paysan garderait. Il y a peut-être d'autres questions que vous avez trouvées intéressantes. Peut-être qu'on pourrait se mettre en petit groupe pour essayer de répondre à ces questions en plus petit groupe pendant une demi-heure et faire une petite restite après.
Dans le sens où on est en train de bâtir la République autonome du Bocage.
Exactement, c'est de se dire, si on veut aller vers
Une prospective, quand
même. À quoi ressemblerait le truc, peut-être qu'il faudrait se cadrer. Parce que toi, l'idée, c'est de proposer quoi c'est de proposer, de dire, on devra tous devenir paysans. À quoi ça peut ressembler et comment on y parvient dans de bonnes conditions? Est-ce que ça, c'est ça les questions?
Moi, j'ai pas d'idée derrière. J'essaie de soulever les choses.
Ça va pas
une idée? Pourquoi l'idée de la vie autonome du Bocage à la base? C'est parce qu'en fait, si on s'intéresse aux problèmes planétaires, on est vite désemparé, on n'a pas les clés, on ne peut pas agir. Et si on limite le périmètre, on se trouve dans des échelles où en fait, on peut s'autoriser à réfléchir parce que c'est humainement concevable. Du coup, et finalement, quand on pense à la vie, nous ne pensons pas aux villes en général, pensons aux villes qu'on connaît et aux campagnes qu'on connaît. Enfin, du coup, c'est juste un outil de pensée, ce qui se passe là. Quoi.
Donc si on se dit, on imagine dans combien d'années un bocage 100% paysan, à quoi ça ressemble et comment on y parvient?
Est-ce que c'est possible?
Est-ce que c'est une question qui vous intéresse déjà, ou est-ce qu'il y a une autre façon de formuler la question qui peut être plus pertinente?
Tu peux répéter la question.
Si on veut ramener la question au niveau du bocage, parce que là, il va y avoir deux interventions. En plus, il y a Coco et Françoise qui ont été notées. Mais je propose que pour après, on essaie de faire un petit groupe. Est-ce que, si on se dit dans 20
ans,
ça peut être dans 20 ans le bocage 100% paysan, on peut imaginer comme ça, et à quoi ça ressemble et comment on y parvient? Ça vous semble logique?
Oui.
Et bien on prend les deux dernières interventions et après on essaye ça, et puis si les questions ne sont pas bien, vous pourrez aussi les changer et traiter d'autres choses si vous préférez. Et bah parce qu'il restait jusqu'à 18h et qu'il était 20.
Il est 22.
Il est 22, donc ça permet de faire une demi-heure en petit groupe et puis après de revenir en
restitution.
On restitue pas.
Bon, 20 minutes en petit groupe si tu veux. Oui, ou enfin.
Non, on restitue pas, c'est important de restituer. Ouais, si tu veux, c'est
sympa. Pour restituer tout.
On peut faire une restitution rapide.
On peut faire une restitution rapide pour avoir le temps de parler, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui n'ont pas eu le temps de parler, c'est plus ça. C'est peut-être dans la richesse des échanges. Vous aviez du coup des dernières interventions à faire avant qu'on change de.
Allez-y, je tiens rien du tout.
Merci, Quentin.
Merci à tous. Non, je ne vais pas vous expliquer comment le monde va s'effondrer. Je crois qu'on a tous à peu près capté l'idée que on va tous mourir. En tout cas, moi, j'ai l'impression d'être au courant dès le début de mon engagement de ma vie. Donc c'est ok, et du coup, vu qu'on est en vie, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on bouge pour faire des trucs chouettes? C'est marrant parce qu'on parle beaucoup d'énergie fossile, et là, rien que juste de regarder, en fait, l'énergie de la pièce qu'on a réussi à créer, c'est... Je me sens hyper tendu, là, je sais pas si vous ressentez ça aussi. Je me sens tendu plein de choses, parce qu'en fait, on n'a pas arrêté de... de dire que le monde allait s'effondrer et que c'était peine perdue et que chacun a des points de vue différents. Du coup, moi, en fait, au travers de mon discours, c'est je vous montre un peu ce que j'ai derrière mes lunettes, du coup, derrière la perception que j'ai de la vie. Et du coup, on voit bien que chacun a tous une perception de la vie qui est différente. Et du coup, si on s'entend collectivement, il vaut mieux qu'on ait ça en tête. Qu'on est tous potentiellement d'accord, mais aussi pas d'accord, mais qu'on peut trouver quand même des terrains d'entente. Du style, par exemple, moi j'ai choisi de vivre mon expérience de la sobriété en l'ayant choisi. Du coup, ce qui est super chouette pour moi, c'est... certains pourraient dire que je suis assez pauvre, mais moi c'est ma plus grande richesse. Et du coup, de ce fait, je ne suis pas totalement contre à ce qu'on utilise le pétrole, par exemple. Et du coup, je suis content que mes voisins l'utilisent et l'utilisent de façon raisonnable. Et du coup, j'aime bien poser ce mot, c'est qu'est-ce qui est raisonnable dans l'utilisation de notre pétrole pour demain. Mais à mon sens, c'est une fausse piste de se dire qu'on va totalement le supprimer parce qu'il est quand même grave utile, quoi. Donc voilà, chacun fait ce qu'il peut avec son échelle et son regard, et tout est respectable dans la limite du raisonnable, donc à définir ce que c'est qu'est raisonnable. Et voilà, pour répondre à cette question, tenter de répondre à cette question au travers de mon regard de est-ce qu'on doit tous être paysans, j'avais envie de transformer la question, moi, de peut-on se permettre de. D'être coupé de la sensibilité au vivant, ce qui est à mon sens ce qui se passe dans nos villes où vraiment on n'a plus aucun contact avec les êtres vivants, et ce qui pousse c'est juste pouvoir observer et s'émerveiller devant juste un truc qui pousse. C'est déjà une grande façon de répondre à la question après, de remettre les mains dans la terre et de sentir cette chose-là qui nous émerveille, qui nous rend heureux et qui nous fait avancer dans la vie. Merci.